Tech Café, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur les nouvelles technologies. Bienvenue avec nous, vous restez au courant de ce qui se passe et on vous partage nos regards critiques. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je suis ravi de retrouver votre chroniqueur favori, celui qui apporte pédagogie et sens critique dans les usages d'aujourd'hui et de demain, auteur de Machines de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Mais ça va très bien, et toi ?
Oui, très très bien, très content de pouvoir petit à petit reprendre mes marques pour Tech Café, donc ça c'est très cool avec la rentrée. Normalement, si je me suis pas trop planté, vous avez entendu et vous avez actuellement en arrière-plan un nouveau générique. Voilà, c'est les petits changements de rentrée. Ensemble, nous allons vous parler de l'actualité tech en provenance notamment d'Asie avec une nouvelle fois les implications politiques et notamment en lien avec les soulèvements qui ont lieu à Hong Kong. Et puis suivra un peu le billet d'humeur de Guillaume Poggiaspala qui portera sur l'éthique des sociétés, qui utilise les humains et les algorithmes, parfois les deux, parfois ils nous trompent, on ne sait pas trop ce qu'ils utilisent, vous allez peut-être bien être surpris. Et puis nous terminerons par des news sur le monde des jeux vidéo et quelques inclassables en bref. Est-ce qu'il te convient ce programme, Guillaume ?
Mais il est parfait, il est succulent.
Bon, eh ben écoute, je me réjouis d'avance qu'on puisse dérouler tout ça ensemble. Un petit mot avant tout pour vous rappeler que Tech Café est disponible en financement participatif sur Patreon. Donc si vous découvrez l'émission, prenez le temps de l'écouter, évidemment. Hein, mais si vous êtes convaincu à la fin de l'émission par ce qu'on vous apporte comme contenu sur la manière dont on vous l'amène en podcast, en audio, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la page patreon.com/techcafé pour découvrir comment vous pouvez nous supporter. Alors c'est très facile, hein, c'est de l'ordre de l'équivalent d'un euro par épisode que vous pouvez engager à verser à chaque émission. C'est sans engagement et c'est garanti sur facture sur la qualité du contenu que vous allez avoir en face. Donc allez jeter un coup d'œil et au passage, merci beaucoup à Prismix, Ludovic Robert et P. Voilà, il y a que P qui soutiennent désormais Tech Café depuis quelques jours. Merci beaucoup à vous d'avoir rejoint le podcast. Guillaume, avant d'attaquer notre petit plan, j'avais deux petites actus à chaud que tu as probablement suivi, que je voulais traiter, mais très rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire non plus. On avait parlé déjà de Libra, qui est cette crypto-monnaie portée à l'initiative de Facebook, même si c'est pas la crypto-monnaie de Facebook, puisqu'ils ont créé une entité de type associative, partenaire avec plein d'autres entreprises pour lancer cette crypto-monnaie, qui va faire l'objet d'une enquête des autorités européennes de la concurrence. C'est une news qui flotte un peu parce que c'est tombé du côté de chez Bloomberg là hier, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations. D'ailleurs, ni Facebook ni la Commission européenne ont apporté d'éléments supplémentaires, de commentaires, donc on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, il faut s'attendre à ce que Libra, au fur et à mesure de son arrivée durant les semaines et les mois à venir, va faire l'objet de pas mal de regard critique de la part de différents États. Et puis un petit mot aussi, c'est une news qui a été partagée dans le groupe Telegram de Tech Café de Binance. Alors je ne sais pas si tu connaissais, toi Guillaume, Binance.
Oui, j'en ai entendu parler, oui, effectivement.
Voilà, moi je connaissais pas du tout, mais qui est une grosse plateforme au niveau des échanges de crypto-monnaies, qui a lancé son projet Venus. Et en gros, il faut voir ça comme une espèce de Libra, donc la même chose que la crypto-monnaie de Facebook, sauf que elle est régionalisée, c'est-à-dire qu'elle va pas être lancée partout dans le monde en même temps, mais elle va être indexée sur des espaces monétaires locaux dans le monde. Donc c'est une autre approche. L'idée, c'est d'avoir là aussi des ce qu'ils appellent des stable coins, donc c'est des crypto-monnaies dites stables qui sont localisées pour permettre à différentes entités dans le monde de pouvoir se développer là-dessus. C'est une approche qui est un petit peu moins coercitive, je trouve, que celle de Facebook. Est-ce que tu as un avis sur ces deux petites news rapidement, Guillaume?
Bon, comme tu dis, il n'y a pas énormément de choses à rajouter. Hein. C'est que le Trésor américain avait déjà exprimé de grosses inquiétudes vis-à-vis de Libra. Et d'ailleurs, Facebook avait dit que de toute façon, la charte Libra serait pas publiée, la charte définitive serait pas publiée avant que toutes les inquiétudes de tous les régulateurs ne soient calmées. Donc ça va prendre un petit moment. C'est clairement le produit de FinTech qui est le plus scruté de toute l'histoire, je pense.
Clair.
Et oui, mais c'est non seulement c'est normal vu l'ampleur du truc, mais ça va peut-être aussi amener des coups de projecteur sur d'autres zones un petit peu ombreuses comme ça de la crise des crypto-monnaies, puisqu'on sait par exemple que la Corée du Nord utilise pas mal les crypto-monnaies pour contourner les embargos. Et on sait aussi que bah, des organisations que certains pays considèrent comme terroristes, par exemple le Hamas, commencent à utiliser le Bitcoin aussi pour se financer. Je pense que c'est des choses qui vont se démocratiser à l'avenir, quoi. Hein, et du coup, bah, il va falloir réfléchir au blanchiment d'argent aussi de cette manière-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est... bah, ce sont des réflexions qui sont en cours. On sait par exemple qu'il y a il y a une task force, si tu veux, qui réfléchissent un petit peu à comment est-ce qu'on pourrait essayer d'éviter le blanchiment sur les crypto-monnaies, sur les plateformes numériques. Voilà, donc c'est un vaste chantier auquel il faut s'atteler, je pense, effectivement.
Eh ben, on suivra ça. C'était un petit peu l'info à chaud pour se mettre en bouche un peu avant tous nos sujets. On attaque tout de suite sans autre forme de procès pour parler de la tech qui émane un petit peu du rayonnement asiatique. Et au passage, avant qu'on les attaque, Guillaume, je sais pas si tu partages mon avis. Je découvre pas le fait qu'il y a de la tech en Asie, en Chine. Il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas l'avoir vu. Mais je suis marqué de voir que depuis plusieurs mois, notamment à l'aune de l'embargo de la part des États-Unis à destination de Huawei, dont on va là aussi encore un petit peu parler, j'ai l'impression qu'on met beaucoup beaucoup en lumière ces derniers mois la technologie asiatique au sens large et en particulier chinoise. J'ai l'impression qu'on est tous maintenant convaincus que ce sont plus que jamais des acteurs énormes qui ont un poids très important dans le monde et qui ont leurs influences. Alors que paradoxalement, c'était sans doute le cas encore ces dernières années, mais j'ai l'impression qu'on s'en rend compte vraiment cette année. Est-ce que je me trompe, Guillaume, dans la perception des choses ?
Non, mais c'est surtout que là, on passe dans un affrontement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était dans une sorte de coopération où tout était mondialisé. Évidemment, la tech chinoise était présente de partout. La Chine, ça fait des années qu'elle produit énormément de nos gadgets, pratiquement tous nos gadgets, en fait. Hein. Sauf que là, évidemment, ce qui a changé, c'est que la Chine est passée du statut d'allié, du statut de petite main, on va dire, à celui de puissance rivale, voire celui de concurrent sérieux, voire d'adversaire. Et donc ça, c'est effectivement totalement nouveau.
C'est très nouveau et je pense que ça va encore s'accentuer dans les mois à venir. Alors en tout cas, les dernières news, c'est donc le fait que Huawei a fait l'objet d'un on va dire, de bannissement des marchés technologiques américains s'est vu accorder un sursis de 3 mois. Et on est arrivé un peu à la fin de ce sursis de 3 mois qui a été renouvelé. Donc à nouveau, Huawei peut commencer peut continuer à voir le développement de ses technologies avec les technologies américaines sans trop d'inquiétude à très court terme, donc à l'échelle de 3 mois. Ça donne un petit peu d'air, Guillaume.
Ouais, bah, c'était en août, hein, que s'initiaient les fameux 90 jours de sursis qu'avait eu Huawei, donc, il y a 3 mois. Bon, le gouvernement américain décide finalement de lui accorder 3 mois supplémentaires jusqu'au 19 novembre, pour continuer d'acheter et de vendre avec des prestataires américains. Au terme de quoi, bah, il pourrait être réellement blacklisté. Le secrétaire d'État au commerce, Wilbur Ross, enchanté, a annoncé dans la foulée que 40 autres prestataires partenaires de Huawei, ça porte le nombre à plus de 100 quand même, dans tous les pays du monde, Costa Rica, Inde, Italie, Mexique et même en France, seront blacklistés au terme des 90 jours. Et Trump allait s'attendre qu'il n'y aurait pas d'extension. Donc ça fait 3 mois de mieux pour Huawei. Mais selon Wilbur, c'est uniquement pour faciliter la transition. Pour l'instant, on part sur une exclusion totale de Huawei mi-novembre. Bon, c'est un boycott qui va coûter cher, hein, puisqu'en 2018, Huawei a quand même acheté pour 11 milliards de dollars de produits aux boîtes américaines. Et donc le trade war, comme on en parle, là, c'est loin d'être fini, ça va faire mal. Hein. Et d'ailleurs, Tim Cook a déjeuné cordialement avec Donald Trump vendredi dernier.
On imagine l'ambiance pourrie, tu sais, avec les sourires de façade, mais l'ambiance pourrie.
Ah, ça devait être magnifique, ça devait être... Ouais, ça doit être de la langue de bois de haute voltige. Enfin, tous les cas, voilà. Donc, c'était vendredi dernier au golf club du président, au New Jersey. Et bon, apparemment, Tim a réussi à être pédagogue, puisque le leader du monde libre, comme on dit là-bas, a compris qu'imposer des droits de douane élevés sur les produits chinois, ça pouvait ne pas faire l'affaire des entreprises américaines. Et en l'occurrence, ça fait les affaires de Samsung, parce que Samsung, il est en Corée. Et donc, forcément, son concurrent, Apple, lui, il a des appareils qu'il fait designer in California, mais qui fait massivement produire en Chine. Donc ça ne l'arrange pas du tout ça, alors qu'évidemment, en Corée, Samsung, lui, ne paye pas de surcroît. Donc Donald va y réfléchir, je cite, et bon, on verra bien ce qui en sortira. En attendant, les 10% supplémentaires de taxes, c'est pour le 1er septembre, même si les iMac et les MacBook des compagnies, là, ça bénéficiera quand même d'un petit répit jusqu'au 15 décembre.
Bon, c'est beaucoup de sursis. Alors, on pourrait s'imaginer que c'est des menaces comme ça qui sont proférées. Enfin, je suis à peu près persuadé qu'on ne peut pas appliquer ce genre de choses du jour au lendemain. Et je suis aussi à peu près persuadé qu'ils sont effectivement en train de mettre en place une transition avec une vraie volonté de bloquer tout ça. On verra ce que ça donne. En tout cas, Huawei est un peu embêté pour du coup la commercialisation de ses produits. Et a priori, des news nous sont remontées dans notre radar de notre veille qui indiquerait qu'ils auraient vendu clandestinement des smartphones aux États-Unis. Alors il faut s'imaginer amener des smartphones autour des États-Unis, masquer les logos, peut-être les reconstruire pour qu'on voit pas que c'est des appareils Huawei pour les vendre clandestinement aux États-Unis, Guillaume.
Oui, alors la combine serait été d'envoyer donc effectivement dans une usine mexicaine des téléphones Huawei, virer le logo effectivement, virer toute trace du, enfin voilà, tout truc évident qui dirait que c'est un Huawei, et après les faire passer sous une autre marque à travers la frontière et les vendre comme ça. Ça aurait été un projet que les agences de renseignement américaines auraient découverte au mois de juillet 2019, et donc c'était une opération secrète que Huawei aurait bien entendu annulée. Alors, autant le dire tout de suite, l'info provient d'un journal conservateur qui reste un peu vague au niveau
des
sources.
Prenons des maxi-pincettes.
Voilà, surtout ça. Et ça me paraît assez peu crédible. Tu vois, quelle était la fausse marque? Si cette marque avait eu le moindre succès, le poteau rose aurait été facilement découvert. Donc, je vois pas Exactement. Très bien pourquoi s'embêter à ce point-là. Donc, moi, en conclusion, j'y crois pas du tout, en fait.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, de toute façon, d'ailleurs, ça se sent dans la manière dont sont relayées les news. Et on sent qu'il y a un petit peu de recul qui est pris et on sent bien que tout le monde prend pas ça pour argent comptant. Donc, vous aussi, conservez votre regard critique. Il y a un terrain aussi sur lequel il va devoir se battre. C'est celui de la cartographie, parce qu'évidemment, c'est un secteur hyper important dans le milieu de la tech et on sait à quel point ça brasse beaucoup d'enjeux sur l'utilisation notamment de nos smartphones, mais pas que. On le sait d'ailleurs à quel point Apple investit dans Apple Plan pour concurrencer Google Maps et peut-être s'affranchir. Avec du recul, d'ailleurs, je suis toujours impressionné de me dire qu'Apple continue à investir sans doute énormément d'argent pour développer Plan de leur côté, Maps, enfin le service Apple, alors que Google Maps évolue à vitesse grand V et a un capital d'informations et de fonctionnalités géniales. Parfois, on pourrait presque se poser la question, est-ce que c'est pas une course vaine d'avance? Donc ça montre à quel point la cartographie est un enjeu important. Et donc ça l'est aussi pour Huawei qui va probablement lancer ses propres technologies là-dessus, Guillaume.
Oui, mais ça c'est un truc crédible par contre, hein. C'est une riposte qui s'organise petit à petit face à l'embargo américain qui se profile, on va dire. Parce que après Harmony OS, c'est autour de systèmes de navigation et de cartographie qui s'appellerait MapKit, qui a été dévoilé par Huawei dans le China Daily. C'est un service qui couvre 150 pays et dans 40 langues et qui sera disponible pour les développeurs qui souhaitent une API de cartographie alternative. Alors c'est des principaux nerfs de la guerre, comme tu le disais, d'après Chang Pigan, la présidente du cloud chez Huawei. 50% des applis du store utilisent un service de carto quand même.
Ah ouais, j'étais impressionné ça.
Et oui. Donc très vraisemblablement, ce sera un partenariat avec Yandex, qui est le Google russe, et Huawei travaille aussi avec Booking, bon, probablement en tant que client par contre. Donc voilà, les infrastructures réseau de Huawei évidemment lui donnent des possibilités de repérage un petit peu fin comme ça. Et puis après, il y a des acteurs de cartographie locaux, en plus de Yandex, qui vont contribuer sans doute à enrichir les données. Donc c'est un service qui proposerait d'ailleurs déjà de la réalité augmentée, qui vient d'arriver chez Google, on en parlait la semaine dernière. Et il y aura aussi des infotrafics en temps réel. Alors, comme tu disais, on sait qu'Apple et Microsoft en tête ont essayé, et c'est difficile de tenir tête à Google dans le domaine. Mais là, pour le coup, s'ils n'ont pas le choix, peut passer en quelques jours d'Android avec Google Maps à Harmony OS avec MapKit. Et forcément, ils vont investir à fond dedans. Ils ont déjà une grosse base installée en Chine. Bon, l'avenir nous le dira, quoi, mais encore une fois, poussé par la nécessité, si un acteur doit créer un écosystème alternatif crédible à Google, disons que Huawei est quand même un bon candidat.
Ouais, effectivement. Et alors, en plus, il y a quand même cette initiative de s'associer, donc Huawei, avec d'autres acteurs assez emblématiques sur le plan de la tech. On peut citer Xiaomi, évidemment. Ils sont en train de s'organiser au point qu'ils seraient en train de développer des fonctionnalités qui, moi, je trouve, font effectivement cruellement défaut dès qu'on sort de l'écosystème de la prison dorée d'Apple, d'iOS et de macOS. C'est un équivalent, par exemple, d'AirDrop, donc qui est cette fonctionnalité qui permet de manière vraiment magique d'envoyer des fichiers, des photos par exemple, d'un appareil à un autre, mais sans trop se poser la question de comment ils sont connectés, est-ce que c'est par Wi-Fi, par Bluetooth, c'est un mélange de tout ça. Et à l'usage, c'est extrêmement pratique, c'est magique, et une fois qu'on a commencé à l'utiliser, ça, on s'affranchit de plein de problèmes. Il n'y a pas vraiment d'équivalent très performant sur, sur Android. C'est pas faute qu'Android ait essayé d'implémenter Android Beam, qui était une espèce de volonté de faire la même chose en 2011. Mais du côté des Chinois, il pourrait y avoir du sursis, enfin une solution en tout cas, Guillaume.
Oui, bah, alors juste oui, tu parles de cette initiative qui est donc de Xiaomi, Oppo et Vivo, qui vont donc intégrer dans leur donc système respectif, donc c'est MIUI, ColorOS et FunTouch OS. De Vivo, ouais. Ils sont tous basés sur Android, mais ce sont tous des distributions un petit peu différentes, quoi, hein, qui vont intégrer un système comme ça de peer-to-peer, de transfert de fichiers peer-to-peer. Ce message WeChat, hein, de Xiaomi qui a annoncé ça. Le protocole utiliserait le Bluetooth, mais il irait jusqu'à 20 mégasecondes, ce qui suggère que ce serait plutôt du Wi-Fi. Et finalement, oui, ce serait quand même complètement un truc analogue à AirDrop. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant que, enfin, qu'Android ait jamais réussi à imposer un truc comme ça. Alors il y a eu des tentatives quand même, hein. Il y avait des fast shares, il y avait des trucs qui s'appuyaient sur le NFC, il y avait Android Beam, hein, tout simplement. Et bizarrement, ça a jamais, voilà, ça a jamais vraiment, vraiment pris. Alors, donc, c'est déjà trois gros acteurs en Chine, puisque c'est à peu près la moitié globalement, c'est la moitié du marché chinois, ces trois sociétés. Alors, évidemment, il reste Huawei, qui, lui, et c'est encore un gros tiers du marché chinois. Ce serait, la question, c'est de savoir si Huawei va se ranger aux côtés des autres. Ce serait pas mal, parce que comme toi, je trouve que c'est plutôt une fonction assez sympatoche et qui n'existe pas encore. Enfin, on va dire, pas de manière vraiment développée, c'est dommage.
Ouais, et ça manque aussi sur ordinateur, parce que même de s'envoyer ça d'un ordinateur à un autre ou de smartphone à ordinateur ou inversement, c'est top. Il faudrait aussi que ce soit possible sur Windows. Bon, j'imagine que sur Chrome OS, c'est beaucoup plus facile de développer ce genre de choses pour un Google, mais bon. OnePlus aussi, quelques mots sur ce qui se passe en termes d'innovation
du côté de l'Est. J'ai pas beaucoup de données, en fait. Hein. OnePlus va sortir une télévision qui va sortir en Inde. Et voilà, elle tournera sur Android TV. Et voilà, ils ont sorti pas beaucoup plus d'informations qu'un logo extrêmement moche, en tout cas extrêmement basique.
Mais ils en sont très fiers pourtant.
Ouais, c'est le logo de OnePlus avec TV écrit à côté, quoi. Je veux dire, c'est pour en être fier. Bon. Toujours est-il qu'il va s'attaquer à un marché extrêmement compliqué. Là, OnePlus, le marché des télés, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel avec des marges très très basses. Ouais. Donc, je leur souhaite beaucoup de courage, mais bon, je suis un petit peu perplexe.
Et puis, c'est vraiment le foin qu'ils ont fait autour du logo est assez déroutant de dire qu'ils se sont inspirés des lignes, des bâtiments grecs, de je sais pas quoi. Bon c'est OnePlus, c'est un plus et TV à côté, effectivement. Un petit mot, on parlait de Huawei au passage. Il y a des informations qui sont ressorties suite à une enquête du Wall Street Journal, alors qu'il faut peut-être là aussi prendre avec des pincettes, mais il y a un terrain où on n'aurait pas vu Huawei, c'est en Afrique, et pour cause, ils sont extrêmement implanté en Afrique de par les infrastructures notamment, et la lumière est mise sur l'activité en tout cas d'employés, alors c'est pas Huawei directement, mais d'employés de la firme qui auraient accompagné des gouvernements d'états africains, notamment l'Ouganda et le deuxième dont j'ai perdu le nom, la Zambie, pour mener des actions contre des opposants politiques. Par exemple, dans le cas de l'Ouganda, en 2018, ils ont voulu renverser Bobby Wine, je le prononçais à l'anglaise, qui est une personne qui faisait un petit peu figure pour l'opposition là-bas en Ouganda. Et a priori, les autorités de l'Ouganda auraient fait appel à ses employés Huawei en Ouganda pour hacker des communications WhatsApp et Skype de cette personne. On n'a pas évidemment beaucoup plus de détails, mais il y a aussi la même news, enfin la même enquête qui soulève le fait qu'il y aurait pu y avoir des actions similaires en Zambie, notamment de la part là aussi d'employés Huawei qui auraient aidé à pirater des smartphones et des comptes de réseaux sociaux pour des personnes qui s'opposent au pouvoir en place. Voilà, c'est pas directement lié à la guerre commerciale qui se voit affronter les États-Unis et des entreprises comme Huawei Huawei ou des entreprises chinoises importantes dans la tech, mais juste pour dire aussi que ces entreprises sont évidemment très implantées à d'autres endroits dans le monde et il y a aussi des activités qu'il faut surveiller, regarder et arriver à décortiquer. Là aussi, des infos à prendre avec des pincettes, mais à surveiller quand même. Ce qui se passe en tout cas dans le monde de la tech, c'est du côté de Pékin, et je l'ai dit tout à l'heure en intro, il y a évidemment des soulèvements importants à Hong Kong de la part des habitants qui veulent conserver une certaine forme d'autonomie et en tout cas lutter contre un projet de loi qui viserait à faciliter les extraditions d'habitants de Hong Kong pour la Chine. Et évidemment, les conditions judiciaires sont pas les mêmes. Il y a des soulèvements très importants, on en a déjà évoqué quelques éléments durant les derniers épisodes. Et Pékin s'appuie sur les réseaux sociaux là-bas pour intervenir à sa manière, Guillaume.
Oui, alors c'est Twitter et Facebook, hein, deux concerts qui ont accusé la Chine le 19 août de mener une campagne qui voudrait décrédibiliser les manifestants à Hong Kong. Donc c'est manifestation qu'il y a depuis 2 mois quand même. Et ça, on les comparant de manière assez un petit peu abusive sans doute à des cafards, par exemple pour la société, qui déterminaient qu'il faudrait tuer ou lance-pierre. Ou les comparant par exemple à des combattants de l'État islamique, manifestants État islamique, quelle différence, interroge un post Facebook. Donc voilà, ça c'est pas très... Voilà, c'est clairement... Alors Twitter a annoncé qu'il avait supprimé 936 comptes qui cherchaient donc spécifiquement à semer la discorde politique à Hong Kong, et notamment, je cite, à saper la légitimité des positions politiques du mouvement de contestation. Il y a un réseau plus actif de 200 000 comptes, hein, qui ont été créés au fur et à mesure. Alors tout ça, c'est assez... c'est très bien coordonné, c'est coordonné tellement bien que c'est un truc qui est au niveau étatique. Mmh. Et en plus, c'est des posts chinois qu'on reconnaît parce qu'ils sont souvent assez mal écrits et ils ont des ressorts qui marchent qu'en Chine globalement et qui font un petit peu, enfin pas sourire, mais disons qu'ils sont un petit peu bizarres au-delà. Bon, alors du coup, il y a Twitter qui a réagi aussi, il va bloquer la promotion de tweets des médias officiels chinois, comme il l'a déjà fait d'ailleurs pour les médias russes il y a 2 ans de ça. Hein. Bon, Facebook, c'est aussi exprimé, néanmoins ils ont été un petit peu moins catégoriques, on va dire, là, sur ce truc là.
Ouais, tu voulais enchaîner aussi en relatant quelques éléments d'écho par rapport au compte d'ambassadeur sur Twitter de la part d'employés Amazon.
Oui, c'est assez rigolo parce qu'effectivement, de la propagande, essayer de décrédibiliser des gens sur Twitter, il faut le faire bien, quoi, tu vois.
Il faut donc, faire avec professionnalisme, monsieur.
Bah, oui, bah, voilà. Et là, on peut dire qu'ils sont, c'est des merdes pas très bien parce que les Chinois, ils essaient de décrédibiliser donc les pro-démocraties. Mais Amazon, lui, il essaie de décrédibiliser les syndicalistes. Globalement, c'est une campagne qui existe depuis plus d'un an déjà. C'est celle des ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs, qu'est-ce que c'est ? C'est des travailleurs qui travailleraient donc dans les gros entrepôts Amazon, ce qu'ils appellent des fulfillment centers. Et eux, ils tweetent donc sur les nombreuses postes pipi offertes par leur employeur, avec une joie incroyable. Effectivement, tous ces autres travailleurs-là tweetent sur les conditions de travail qui sont franchement pas dégueulasses, quoi, dans les fulfillment centers. Ils sont très contents et apparemment, ce sont des gens qui ont été payés par Amazon, qui reçoivent des cartes cadeaux de $50, un jour de congé payé supplémentaire, et c'est marrant. Bon. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en janvier, il s'est avéré que les comptes avaient changé de main. Voilà, donc il y en avait un qui appartenait à un Lion, mais il a changé d'affichage et son handle pour un Sierra. Il y a un Rick qui est devenu James, une Michelle qui est devenue une Sarah, etc., etc. À tel point que les utilisateurs de Twitter se sont demandé si c'était pas des robots. Bon, les ambassadeurs ont nié être des robots. Toujours est-il qu'il y a... Effectivement, c'est
comme
la première
tout
chose
bon robot
que fait un robot.
Il n'irait être un robot.
La première chose que fait un robot, c'est bien sûr que non. Donc, y a sur les 53 ambassadeurs, dont 4 français d'ailleurs, ils disent tous à peu près la même chose. Ils écrivent des trucs qui sont extrêmement similaires et extrêmement stéréotypés. Et globalement, c'est rigolo parce que c'est, en gros, c'est une propagande anti-syndicale, voilà, puisque leur message, c'est « Non, on est bien traité chez Amazon, ça sert à rien, si vous syndiquez, vous êtes contre l'entreprise, etc. etc. » Et donc, cette propagande anti-syndicale, elle est quand même assez vieille, puisque même Ronald Reagan avait été ambassadeur itinérant pour General Electric. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez vieux. Et donc, Twitter, c'est une manière de rendre ça un petit peu plus authentique, un petit peu plus direct, tu vois, c'est pas
pareil. Je sais
pas
si c'est plus authentique. C'est plus direct.
Mais voilà, mais... c'est ça. Le truc, c'est que ça enfin, en tout cas, Amazon
ça
pense que
de
c'est
portée,
perçu ouais, de manière plus ça. Authentique et plus directe. Ouais. Sauf que là, c'est fait de manière tellement, on va dire, grossière que c'est assez peu crédible. Donc voilà, c'était bon. Donc ça continue. Les ambassadeurs continuent envers et contre tout, on dirait.
Moi, j'ai pas l'impression, de toute façon, que ce soit. Enfin, je suis pas convaincu non plus que ça puisse être des robots. Non pas parce qu'ils le nient, mais parce que je pense que ce serait compliqué à administrer. Et il me semble que ce serait peut-être plus simple de mettre en place des espèces d'éléments de clauses dans des contrats d'employés et de leur demander de faire ça pour des comptes que tu leur mets à disposition. Et puis, bah, à la fin des clauses, à la fin de la période contractuelle qui lie à la clause, bah, tu réattribues le compte à d'autres. Il vaut mieux réexploiter des comptes Twitter qui ont déjà été utilisés pour ça, quitte à ce qu'ils changent de nom, tu vois. Enfin, je sais pas. Bon. En tout cas, une pratique qui continue et qui n'est pas si jeune que ça, finalement. Un dernier mot pendant qu'on parle d'Amazon, parce qu'on avait parlé, on avait relayé ce reportage qui avait été diffusé, qui montrait qu'Amazon détruisait des produits invendus parce que finalement, ça leur coûtait moins cher que de les stocker pour rien, finalement, Guillaume.
Et oui, c'était ce fameux documentaire Crash Investigation d'Élise Lucet qui avait montré ça de manière très spectaculaire. A raison, de toute façon. Hein, et bon, voilà. Bah, alors, Amazon, du coup, a lancé un programme qui s'appelle le Fulfillment by Amazon Donations. Donc, c'est ce quoi ? Bah, c'est donner, effectivement, tous ces trucs, ces invendus qui sont en trop et que on ne sait pas quoi foutre, hein, littéralement. Bah, donc, voilà, on les donne à des associations qui s'occupent, elles, de les distribuer à ceux qui en ont besoin. Alors, c'est un truc qui va se faire donc à partir du mois de septembre aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc, avec des associations comme Good 360 aux États-Unis et des associations caritatives comme New Life, l'Armée du Salut en Angleterre. Donc c'est bah voilà, c'est quand même bon, on peut saluer hein, évidemment, on dit que ça va pas, et ça c'est quand même un bon move. Le truc c'est qu'apparemment ça se va pas se faire en France, donc pauvre Élise Lucet. Voilà, je sais pas, elle a fait ça pour rien. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils ont pas réussi à trouver des associations en France, je comprends pas très bien pourquoi c'est qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, espérons que ce soit qu'un début évidemment.
Espérons que ça se propage, ouais, et que ça vienne plus près de chez nous, ce serait chouette. On clôt cette première rubrique autour des entreprises comme ça qui émanaient de leur activité en Asie, et puis on a dérivé aussi sur d'autres usages, mais on va revenir là aussi à d'autres éléments de la tech qui font polémique, et dernièrement notamment l'information qui soulignerait le fait que Amazon, qui exploite Foxconn comme plein d'autres entreprises, hein, notamment pour assembler et réaliser les assistants connectés Alexa. Donc Foxconn se serait fait épingler parce qu'ils auraient imposé des heures supplémentaires de nuit à des mineurs, des pratiques qui sont pas trop légales, même en Chine, Guillaume.
Même en Chine. Oui, les Amazon Echo Dot hein, se vendent bien apparemment, puisque Foxconn manque de personnel au point d'exploiter comme des bêtes des pauvres élèves de secondaire. Alors c'est l'ONG China Labor Watch qui a révélé que 1000 adolescents entre 16 et 18 ans, des stagiaires de lycée donc, hein, avaient été réquisitionnés pour produire les dots à raison de 10 heures par jour, 6 jours par semaine, et ce même de nuit. Alors ça c'est du stage qui forme la jeunesse, moi je vous le dis.
Ça doit être insupportable.
Et pas intérêt de la ramener, hein. Il y a une jeune fille qui a eu l'outrecuidance d'essayer de refuser des heures sup gracieusement proposées par Foxconn. Alors heureusement, le corps enseignant a pris le relais et a informé le professeur principal qui lui a bien dit qu'elle risquait là de se faire virer de son stage, et qui compromettrait ainsi son avenir professionnel radio chez Foxconn et donc sa vie entière. Bon, elle est donc retournée bien sagement collée. C'est 3000 films plastiques par jour pour $248 par mois. Il n'est pas question non plus de faire de pause pipi. Non, mais les enseignants sont parfois amenés à ramener les tirs au flanc en les prenant par les oreilles. Ils n'ont pas la vie facile, ces pauvres profs, hein, franchement. Bon alors, on ne sait pas pourquoi la communauté internationale s'en est émue, soi-disant que ça serait illégal de faire travailler des mineurs de nuit. Et d'imposer des heures sup aussi, d'ailleurs. Bon, et d'intimider les travailleurs également, d'accord. Donc, évidemment, les trois à la fois, ça fait mauvais effet. Hein. Foxconn lance une enquête, et Amazon également, c'est une question d'image, des actions disciplinaires seraient même envisagées. Alors, c'est étrange, parce que, finalement, ça les habitue à ce qui les attend. Hein, parce que 3000 films plastiques, 10 heures par jour, 6 jours par semaine, pour une poignée de cacahuètes, à 18 ans évolue, il n'y a pas de souci. Bon, évidemment, c'est... Alors, d'ailleurs, je dans la phrase « faire travailler des mineurs, enfin, faire travailler des jeunes de 16 ans, donc 6 jours par semaine, 10 heures par jour, et la nuit », le truc problématique, c'est la nuit, en Chine, en fait. C'est
parce que le reste, ça pourrait passer.
Effectivement. Et oui, donc, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, enfin, bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une armée de micros connectés en permanence dans des millions de foyers. Et donc, on fait avec ce qu'on a, hein, avec son chat vocal, son appli de téléphonie. Parce que à quoi ça sert les échodotes? À écouter aussi.
Oui.
Bon, évidemment. Bon, eh bien, évidemment, Facebook aussi fait écouter. Tu sais que c'est un petit peu la mode. On se réveille, on se dit, ah ben ça y est, on fait écouter des trucs, les gens nous écoutent.
Tu vois, c'est fou ça.
C'est fou ça quand même. Hein, ben oui.
On s'en serait donc, pas douté du tout une seule seconde.
Ben non, pas du tout, pas du tout. Bon, alors évidemment, quand on n'a pas une armée de micros connectés, ben on a son chat vocal, son appli de téléphonie. Donc Facebook fait écouter par les sous-traitants de TaskUs des morceaux de conversation Messenger. D'ailleurs, sans même leur dire où, ni même d'où ça venait, ni même pourquoi, du reste, d'où ça venait, on sait pas. Mais bon, en ce moment, l'écoute générale par les humains, de ce qu'on confie aux machines, c'est pas super populaire. Donc Facebook a décidé d'arrêter pour le moment. Alors bon, Microsoft aussi utilise des humains pour Cortana. Le service traduction de Skype, par exemple, et des échantillons qui ont été récupérés par Moverboard et qui durent entre 5 et 10 secondes, et qui typiquement peut contenir des échanges intimes ou sensibles, comme du sexe par téléphone ou les recherches porno qu'on donne à Cortana, ou parfois même des adresses complètes d'ailleurs. Alors, c'est pas étonnant, hein, les clauses d'utilisation de Skype ne mentionnent pas clairement que des humains peuvent écouter les échanges, elles stipulent que l'audio peut être analysé pour améliorer la qualité. Bon, donc dans une certaine mesure, elle le dit implicitement. Mmh. Bah bon, là encore, d'ailleurs, le plus inquiétant, comme on l'a déjà dit, c'est les fuites elles-mêmes. Le fait qu'un gars puisse apporter des échantillons à Moverboard, ça, c'est inquiétant.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Il y a non seulement un problème de transparence, mais aussi un problème de sécurité. Hein. Ça a pas l'air d'être si simple de faire sortir des échantillons.
Là aussi, ça n'a pas l'air si compliqué, tu veux dire.
Tout à fait, de faire sortir des échantillons. Alors là encore, peut-être parce que tout est externalisé. Hein. C'est difficile pour Microsoft de garder le contrôle sur tous les sous-traitants. D'autant que ces derniers sont souvent sous-payés, eux aussi, pour des jobs ultra mécaniques. Et oui, des jobs formidables. Moverboard a révélé un salaire de 12 à 14 dollars de l'heure pour la transcription de 200 commandes de l'heure. Donc, hein. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent catégoriser dans 2 douzaines de types. Donc, par exemple, des alarmes, le calendrier, gaming. Donc c'est une catégorie. Après, il y a une intention, c'est-à-dire allumer quelque chose ou éteindre quelque chose, etc. Donc c'est un boulot passionnant, à raison d'une catégorisation toutes les 18 secondes. Et oui, donc voilà, c'est l'ère de la technologie, de l'intelligence artificielle qui libère du travail pénible. C'est pas encore pour tout de suite, c'est peut-être pour 5 ou 10 ans. Mais pour le moment, c'est quand même plutôt l'inverse, on va pas se mentir.
Ouais, je suis toujours en fait un peu étonné qu'on soit étonné du fait qu'il y ait des humains qui écoutent, ne serait-ce que des échantillons, parce que effectivement, ça me paraît tellement être évident que pour classer les choses, améliorer les algorithmes, même s'il y a des intelligences artificielles derrière qui interprètent, inévitablement, il y a un moment donné où des humains doivent écouter pour classer les éléments et puis orienter les algorithmes. Les algorithmes ne l'apprennent pas de manière totalement innée. On l'a déjà abordé dans d'autres épisodes sur la manière dont fonctionnait dans les grandes mailles l'intelligence artificielle. Donc, je suis étonné qu'on s'en étonne finalement, mais peut-être que la manière dont ça a été commercialisé et ça a été amené au grand public faisait que c'était peut-être pas si évident que ça, il faut le croire.
Oui, et puis peut-être que les IA sont pas aussi évoluées ni sophistiquées qu'on veut bien le dire. Hein.
C'est
d'ailleurs, dans la série Intelligence extrêmement artificielle, je voudrais Engineer.ai, qui est une start-up indienne, qui promet d'assister à 80% de la création d'une app grâce à l'intelligence artificielle. Alors, c'est trop beau pour être vrai? Oui, c'est trop beau pour être vrai. En fait, ce sont des petites mains qui s'y collent, mais bon, Engineer.tacheron, c'est moins sexy, et ça ramasse pas 30 millions de dollars hein, sur le Vision Fund de SoftBank. Donc, si tu veux du pognon, il faut de l'IA, ou de la blockchain, ou de la VR. Non, pardon, pas de la VR, mais de la blockchain, sûrement. Donc, le AI, c'est super. D'ailleurs, c'est super à la mode. Ça attire 50% de fonds supplémentaires en moyenne. Alors bon, ben, il faut y aller, hein, sauf que même les très gros acteurs qui ont de très gros data centers et qui font vraiment de l'IA, enfin du deep learning, ben, ils doivent quand même avoir recours à des millions de petites mains, comme tu le dis, hein, et la plupart du temps, exploitées de par le monde. On se souvient peut-être du chatbot Facebook il y a 2 ans qui combinait intelligence artificielle et humain dans un mélange pas très clair des deux. D'ailleurs, il est mort en fin 2018, je crois. Ce truc s'appelait M. Je sais pas si tu te souviens de lui.
Si, je me souviens, mais je pensais pas qu'il était mort, Guillaume.
Ah, mais il est mort, hein. Il est mort de sa belle mort. Je pense qu'il a jamais réussi à dépasser le stade du proto, qui perdait du fric. Parce que, en gros, les 2/3 des trucs étaient faits par devaient être repris par des humains, quoi. Bon, écoute, donc t'imagines donc si Facebook a eu du mal pour une petite start-up, ça doit être très extrêmement compliqué. Et donc forcément, bah, ouais, la tentation est grande de survendre des technos qui sont pas forcément aussi novatrices ni si compliquées que ça. Donc qu'est-ce qu'on attend pour faire un techcafé.ai?
Oui, c'est vrai, on devrait. Et ça, je suis sûr que ça buzzerait carrément. Mais je n'étais pas non plus complètement... sceptique sur la promesse d'une boîte qui pourrait automatiser du développement d'app, parce que je m'explique, sur peut-être énormément 80% des demandes qui peuvent être faites à une entreprise de développement d'application, il y a peut-être une grande part des fonctionnalités qui se ressemblent beaucoup, tu vois.
Oui, bien sûr.
Et on a vu des algorithmes qui développaient des sites web sur la base d'instructions. Donc, à la base de la base de la base, ça me paraissait pas impossible, quoi.
Alors, c'est vrai, sauf qu'en fait, faire de l'analyse sémantique pour, sur un texte pour voir ce que tu demandes et faire un arbre de décision pour voir quelle catégorie de trucs et quel projet préfabriqué tu veux choisir, c'est pas d'intelligence artificielle, ça, hein, c'est des algorithmes normaux, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ça peut se faire, mais est-ce que, enfin, tu vois, créer une intelligence artificielle qui s'adapte au mieux à tes besoins en personnalisant le truc, c'est déjà autrement plus compliqué, quand même. Hein.
Ouais.
Pas forcément possible, hein, je dis pas, mais c'est quand même autrement plus compliqué.
On va réfléchir à techcafé.ai, ça pourrait être effectivement super classe. Tu voulais nous reparler de deepfake et de manière assez bluffante d'ailleurs, Guillaume.
Ben oui, si on y réfléchit bien, les deepfakes, c'est pas d'hier. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, et si t'as vu d'ailleurs Fast and Furious 7.
Non, j'en ai vu aucun. Alors, j'ai vu le 1 et je crois que je me suis endormi au milieu et j'ai jamais eu envie de voir les autres. Ouais. Ça m'a pas fait rêver.
Alors, faut voir aussi que Fast and Furious, c'est une série qui a beaucoup évolué, qui est très différente, puisqu'à la fin, c'est devenu une sorte de film de super-héros. Hein. C'est plus du tout du tuning et des trucs, c'est vraiment une film de super-héros. Et donc, dans le 7, la particularité principale du 7, c'est quand même, c'est que Paul Walker, l'acteur principal, est mort au milieu du tournage. Ah, et du coup, ses frères l'ont remplacé. Et le visage de Paul Walker a été incrusté, donc en post-prod, sur ses frères et dans près de 200 scènes, et on y voit du feu. Et le film est sorti en 2015, donc voilà, on faisait déjà du deepfake en 2014, quelque part. Et bon, c'est Haoli qui a participé à cette performance. C'était un chercheur d'origine taïwanaise, hein, il est diplômé de l'ETH de Zurich, c'est l'Institut fédéral suisse de technologie. Et bon, depuis des années, lui, il peaufine des technologies d'effets spéciaux, en particulier pour la recréation de visage. Et il a conçu d'ailleurs une manière assez simple de calculer, de capturer des expressions faciales. C'était il y a 10 ans de ça. Et parce que avant, on utilisait des petites boules. Je te souviens sans doute, hein, dans les films, on bardait de petites boules les visages des acteurs.
Bah, mais là, même Gollum était comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc c'est dans les anneaux.
Probablement. Mmh. Mais là, depuis 2009, petit à petit, on a utilisé cette truc qui utilise que des appareils photo. Il n'y a plus de petites boules, c'est devenu un standard. Et en 2015, d'ailleurs, il a développé une technologie qui s'appelle Face Shift, qui a été rachetée par Apple et qui réussit à repérer les points clés des expressions sans marqueur directement en vidéo. Et c'est aujourd'hui utilisé dans les animojis, donc sur les iPhones. Et bon, parmi les dizaines de publications qu'il a fait, il détaille comment utiliser des réseaux de neurones pour faire du face tracking et modifier un visage en 3D en temps réel de quelqu'un uniquement avec une caméra 3D et une photo de la cible, de ce à quoi tu veux ressembler. Donc il y a une vidéo illustrative YouTube de la technique qui a été originellement montrée au SIGGRAPH 2018, que j'ai mis dans les notes de l'émission. Et donc vous voyez, hein, vous choisissez la cible au hasard, par exemple au hasard Kim Jong-un, c'est quand même toujours sympa, et l'algo va en temps réel faire un deepfake 3D de ton visage, filmé avec la webcam, hein, en temps réel, donc Kim Jong-un qui reproduit des expressions, qui peut danser Gangnam Style, etc., c'est toujours sympa. Donc c'est facile, et c'est même accessible à tous, hein, puisque une version cartoon simplifiée du logiciel est dispo pour tous les possesseurs d'iPhone X et supérieur. Vous fabriquez un avatar reconnaissable animé en 3D, ça prend que quelques secondes, et ça s'appelle Pinscreen. Vous pouvez chercher sur l'App Store, c'est Pinscreen. C'est aussi le nom de la start-up qui a été créée par Haoli pour ce logiciel d'avatar 3D, dont le concept est d'ailleurs... en partenariat avec des grandes marques de vêtements, pourrait se révéler assez lucratif, puisque tu peux habiller un petit peu ton avatar un petit peu comme tu veux. Je sais pas si ça va prendre, mais c'est plutôt une bonne idée. Et bon, Haoli était à Dalian en juin dernier, donc sur le Forum économique international, il avait mis en place une sorte de photomaton dans lequel les hommes politiques pouvaient entrer et avoir leur visage remplacé par la personne de leur choix en temps réel. C'est rigolo, mais bon, c'était aussi pour les sensibiliser. Il y en a qui ont refusé parce qu'ils avaient peur que leurs données biométriques soient volées, mais bon. Peut-être qu'ils avaient tort, peut-être qu'ils n'avaient pas tort. Parce que bon, Haoli est bien placé pour être inquiet sur l'avenir, hein, même pour les pros, et bientôt pour tous, hein, pour tout le monde, hein, le deepfake, ce sera en temps réel et en 3D. Donc il a fait un deepfake de lui, un Elon Musk d'ailleurs, pour arrêter le public. Et bon, il travaille avec Annie Farid, dont j'ai parlé, il me semble, ici, sur la détection automatisée de fake. Donc il est bien conscient, hein, que les progrès en IA vont profiter aux deux camps, et lui il pense que en tant que faker, c'est lui qui va gagner, et que bon, il faudra faire avec. Et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Donc en bonus, hein, je vous recommande, si je l'ai pas déjà fait, le compte YouTube Control Shift Face, qui est donc spécialisé. Et une des dernières performances, c'est de Morphée Bill Hader, qui fait la voix de plein de films d'animation, hein, comme dans The Sausage Party, ou Le Bon Gros Géant, et tout ça, ou vice-versa même. Et donc, il le morphe en Tom Cruise et Seth Rogen, de manière si subtile que ça n'est perturbant. En fait, c'est
ouais,
le mec
c'est
au Saturday Night Live.
Quand on le regarde, ouais.
Et bon, enfin donc il parle et puis après quand il imite Tom Cruise puisqu'il a travaillé avec Tom Cruise, ben son visage se morphe en Tom Cruise. Et puis donc c'est en 2008 hein, et puis c'est pareil avec Seth Rogen. C'est assez dingue, c'est vraiment, enfin c'est bluffant quoi.
J'ai testé Pinscreen pour la petite anecdote. Je trouve que c'est aussi un peu dérangeant parce qu'en plus c'est pas visuellement impressionnant, mais il y a quand même quelque chose de très dérangeant quand on fait l'exercice. L'application est pas très stable hein, au passage. Je partagerai un moment choisi de moi dans une espèce de coussin à la tête de chien dans le groupe Telegram et sur ma story Instagram si vous voulez voir.
Très
ça,
volontiers.
Pour en profiter comme ça. Des petites news aussi du côté de l'utilisation des algorithme quelque part pour la distribution, c'est là l'adoption de camions autonomes dont on va parler, Guillaume.
Ben oui, mais on le sait pas vraiment, mais depuis le mois de mai, UPS utilise une entreprise de camionnage autonome qui est donc c'est Too Simple. Écrit TU Simple, type Too Simple, qui donc transporte des marchandises entre Phoenix et Tucson en Arizona. Donc c'est un partenariat entre les deux sociétés. Et d'ailleurs, UPS a une participation minoritaire dans Too Simple, donc il a acheté pas mal d'actions. Et Too Simple avait déjà un partenariat avec l'USPS, l'United States Postal Service, en mai dernier aussi. Et donc les camions de la start-up parcouraient quand même 1500 km entre les centres de distribution de USPS, de Phoenix en Arizona et de Dallas au Texas. Et ce qui est, c'est assez impressionnant parce que ça fonctionne très bien, c'est des camions Navistar qui ont été bardés de capteurs, ils ont des lidars, en fait ils ont deux lidars, mais le but c'est de faire un truc à la Tesla qui repose que sur de la vidéo, que sur des caméras. Donc c'est un projet qui est soutenu par Nvidia et Sina, qui est une entreprise chinoise, qui a un siège social à San Diego et un autre à Pékin. Donc Too Simple, bah, donc il a aidé UPS à mieux voir un petit peu comment on pouvait faire du camionnage autonome. Et comment est-ce qu'on pouvait, enfin, si le niveau 4, donc ce fameux niveau 4 de l'autonomie, donc je rappelle que le niveau 4, c'est l'autonomie complète, mais dans des conditions spécifiques et constantes. Donc là, c'est le cas, puisqu'en fait, c'est toujours le même trajet, hein, sur des routes bien balisées, quand même, qu'on connaît très bien. Donc c'est du niveau 4, et ce niveau 4, ben, il est apparemment, il fonctionne assez bien sur des camions. Et donc, bon, ben, en parallèle, hein, c'est que, voilà, ça pourrait révolutionner le transport, c'est des trucs. On connaissait le nombre de camions qu'il y a sur les routes, hein, donc c'est vraiment très 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 important comme avancée. Donc UPS travaille aussi sur des services de livraison de drones, des camions électriques, voilà, on sent qu'il y a énormément que ça bouge énormément de ce côté-là, on sait qu'Amazon aussi est en train de se constituer des flottes, FedEx aussi d'ailleurs, qui probablement va de son côté chercher des trucs. Donc les camions autonomes pourraient être beaucoup plus proches qu'on ne l'imagine en fait.
Toujours dans l'utilisation des algorithmes, on avait évidemment parlé de recognition en français, le logiciel de reconnaissance faciale d'Amazon, et on en parlait plus trop ces derniers mois, mais ça continue de plus belle, hein, puisqu'ils ont fait évoluer le logiciel de reconnaissance faciale. Il arrive à reconnaître, alors en plus d'émotions qu'il arrivait déjà à reconnaître, qui étaient la joie, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût, le calme et la confusion, il arrive maintenant à reconnaître la peur. Je pense que ça vous fera à vous-même peut-être peur. En tout cas, moi, ça contribue à m'effrayer un petit peu. Et il arrive aussi à évoluer sur la reconnaissance du sexe de l'individu, sa tranche d'âge. Et évidemment, c'est toujours quelque chose qui est très controversé, puisqu'il n'est pas seulement utilisé pour des besoins de reconnaissance faciale comme ça, pour je sais pas des amusements ou des particuliers, mais il est aussi utilisé par les forces de l'ordre aux États-Unis, notamment à Orlando, où des policiers s'en suivaient, alors s'en servaient encore jusqu'en juillet dernier. Je pense qu'il y a plein d'endroits aussi où c'est au moins en test. Pour la petite anecdote et pour rappel, l'été dernier, donc en 2018, il y avait l'Union américaine pour les libertés civiles qui avait testé Recognition ils voulaient démontrer le manque de fiabilité et pour cause, ils étaient plutôt bien arrivés en arrivant à montrer que 28 membres du Congrès américain avait été identifié comme des délinquants et un nouveau test a eu lieu ces dernières semaines qui arrive au même résultat. Donc ça progresse et en même temps pas tant que ça sur certains fondamentaux.
Ouais, d'ailleurs, je me permets de rappeler aussi que il y a une publication qui est une méta-analyse et qui est sortie assez récemment, qui révèle qu'en réalité, l'analyse des, enfin, la déduction de l'état émotionnel par les expressions faciales repose en grande partie sur du vent. C'est-à-dire que c'est très peu fiable. C'est une analyse qui montre que ça dépend non seulement beaucoup de la culture et des individus, mais que pour un même individu, des expressions faciales différentes, enfin, ou la même expression faciale peut exprimer des choses différentes. Donc c'est voilà, c'est basé sur une science qui est assez, enfin, sur une base scientifique assez fragile, tout ça. Donc l'intégrer dans un produit commercial aussi rapidement, je pense que c'est une erreur de toute façon.
Ouais, c'est assez, c'est un avis qu'on voit en tout cas fréquemment remonter. Il y a des sujets difficiles comme ça, comme ceux qu'on vient d'aborder, qui sont un grand enjeu sociétaux. Et puis il y a les sujets qui font un peu de bien. Moi, je trouve qu'ils font un peu respirer, Guillaume, quand on en parle. C'est celui des jeux vidéo, et ça tombe bien parce qu'on change de rubrique et on va aborder un petit peu les news qui tournent autour des jeux vidéo, parce qu'il y a des événements en ce moment et il y a des annonces. Il y a plein de petites choses qui se passent. C'est pas un E3, par exemple. C'est pas un grand événement comme ça, mais il y a pas mal de petites choses. Guillaume, qu'est-ce que tu as relevé dans ta veille dans le domaine des jeux vidéo?
Bah déjà, c'est Apple qui donc apparemment projette d'ouvrir le fameux Apple Arcade avec Family Sharing et un mois d'essai gratuit pour 5 $ par mois. Est-ce que tu signes, toi? Est-ce que tu t'inscrirais à Apple Arcade? Ça a
Alors,
l'air très cool, hein?
moi perso, non, parce que je me refuse un petit peu à jouer sur smartphone. Je trouve que c'est vraiment trop envahissant et j'arrive pas à gérer mon temps quand je passe trop de temps sur des jeux sur smartphone. Je préfère jouer sur la console quand j'ai vraiment envie de me dédier du temps, mais j'essaye au plus possible de me limiter sur les jeux qu'on consomme. Je me suis fait un peu avoir ces derniers temps puisque j'ai installé Dr Mario, mais tu vois, j'y ai joué 3-4 fois et je pense que je vais le désinstaller parce que ça me gêne déjà de l'avoir là sur mon smartphone, et pourtant j'y passe pas beaucoup de temps, mais ça me perturbe un peu. Donc, mais c'est très très personnel, j'arrive à plutôt bien cloisonner les choses. En revanche, je sais qu'il y a énormément de super jeux sur iOS et je trouve que pour 5 $ par mois, c'est pas forcément complètement dingue si on passe du temps à jouer aux vrais super chouettes jeux vidéo qui sont développés et notamment ceux qui feront partie d'Apple Arcade. Bah, je trouve ça pas plus idiot que d'acheter une console de génération actuelle qui coûte relativement cher, même si on est sur évidemment des gammes de jeux un peu différents, quoi. Qu'est-ce
Bah
que
oui,
t'en penses,
écoute,
toi?
bah moi je trouve, oui, c'est, en tout cas les quelques photos qu'on a vues, c'est bien présenté. Si c'est des jeux, bah si c'est des bons jeux, quoi, je pense que c'est plutôt intéressant. Bon, alors l'annonce officielle, ça c'est un petit peu des rumeurs, l'annonce officielle aura probablement le 10 septembre, quand Apple devrait organiser un événement pour annoncer aussi ses nouveaux iPhones, puisque oui, autre rumeur, les nouveaux iPhones devraient être présentés très très bientôt.
Le 10 septembre, a priori, et de toute façon, on se fera une petite émission pour vous parler un petit peu des annonces dans les heures, les jours qui suivent. Au passage, Minecraft. Alors là, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que il y a deux sujets dans les jeux vidéo qu'on peut évoquer. Il y en a énormément, hein, mais il y a deux sujets, moi, qui me marquent assez souvent. C'est le phénomène culturel que représente Minecraft et, en parallèle, la technologie. Du ray tracing dont on a à moult reprises parlé dans Tech Café, qui consiste, allez, pour être hyper simple, hein, à traiter les rendus d'images de manière différente. Ils sont calculés de manière différente, ils sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus réalistes et ils sont beaucoup plus agréables à consulter. Mais alors, c'est deux trucs que j'aurais jamais associés, quoi. Minecraft, pour moi, c'est l'archétype du truc qui doit être moche pour que ça marche. C'est un peu le bon coin, quoi. Et encore, le bon coin, ça s'est amélioré, mais ça doit être moche pour que ça plaise. C'est très réducteur, ce que je dis. Et en même temps, le ray tracing, c'est la quintessence de la beauté sur les jeux vidéo. Associons les deux, Guillaume.
Oui, c'est vrai que Minecraft en ray tracing, est-ce que c'est pas un petit peu trop luxueux? On peut se poser la question, effectivement. Alors, on peut même d'ailleurs encore plus se poser la question quand on savait que depuis, ça fait 2 ans qu'on attend le Super Duper Pack, donc les processeurs d'Xbox One X, vous voulez jouer à Minecraft en 4K avec des shaders, avec des textures de folie. Donc, c'est le Super Duper Graphics Pack avait été promis par Mojang il y a quand même un bon moment et il a été annulé. Alors en plus, il a été annulé bizarrement puisqu'il a été annulé parce que c'était trop demandeur techniquement à implémenter. Donc voilà, c'est Xbox One X, c'est pas foutu de faire tourner Minecraft et des shaders. Donc hein, c'est voilà, c'est à savoir quand même, c'est assez fort, la console la plus puissante de cette génération. Bravo. Bon, et en parallèle, qu'est-ce qu'ils font ces couillons? Ils font Minecraft en ray tracing. Sauf qu'évidemment, pour faire Minecraft en ray tracing, il faut une carte graphique qui supporte RTX c'est-à-dire pas grand chose, enfin pas grand monde, puisque c'est la Nvidia 2060, 2070 ou 2080 et c'est tout. Alors, bien sûr, si c'est une 2080 Ti, bien sûr, vous pouvez, ça marche aussi. Donc en gros, au lieu de sortir un Minecraft très beau, peut-être un peu moins beau que ce qu'ils avaient montré pour tous les possesseurs PC et Xbox One X, mais que ça aurait fait quand même un petit paquet de monde, mais non, ils sortent un Minecraft en ray tracing qui va intéresser, je sais pas, 40 personnes. je ne comprends pas, sans déconner.
Très peu.
Mais qui a une 2080 pour jouer à Minecraft?
Je sais pas. Oh, pour jouer à Minecraft, je sais pas. Ouais.
Je ne comprends pas. Mais bon, par contre, c'est joli.
C'est beau.
Voilà, les éclairages sont extrêmement... D'ailleurs, c'est même troublant, puisque c'est
perturbant.
Un jeu qui est complètement schématique, mais qui est rendu de manière ultra réaliste. C'est vrai que c'est assez perturbant. Moi, je trouve ça plutôt joli. Ça donne envie, hein, ça donne envie de s'y plonger, mais bon, bah, voilà, c'est quand même très très dommage tout ça.
Quand on voit le petit animal là sur le cube, c'est très bizarre le rendu. Je trouve qu'il y a un truc perturbant. Parce que c'est à la fois réaliste et évidemment Minecraftien, donc c'est bizarre. Des news aussi sur la PlayStation 5 et sur le nouveau projet Microsoft.
Oui, bah écoute, il faut bien, c'est l'instant PlayStation 5. La PlayStation 5, ça va être basé sur du Ryzen 3000, on le sait, sur une architecture RDNA, ça on le sait aussi. Mais à quel point ce sera puissant, on n'en sait rien, mais heureusement, un tweetos qui s'appelle Komachi, et qui avait déjà donné des leaks comme ça, a révélé que l'APU, c'est-à-dire le système sur puce de la PlayStation 5, s'appellerait Oberon, tournait à trois vitesses d'horloge différentes. Donc il y a 800 MHz, il y a 900 MHz et il y a 2 GHz. Alors pourquoi est-ce qu'il y a trois trucs? Tout simplement parce qu'il y a PS4, puisqu'elle est rétrocompatible à PS5, donc il y a PS4, PS4 Pro et probablement le mode natif PS5. Et donc à 2 GHz, ce serait la vitesse native de la PlayStation 5, à 2 GHz, une GPU RDNA, donc ce serait environ 9,2 teraflops. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est au niveau d'une GeForce RTX 2080. Voilà, puisque elle arrive à peu près aux 10 gigaflops. Et bon, alors c'est quand même pas mal, hein. C'est au niveau d'une Radeon RX 5700 XT aussi. Bon, globalement, ça veut dire que c'est très puissant. Et que donc on aura la puissance d'une 2080, la carte la plus puissante actuellement, dans la PlayStation 5, donc ce qui est plutôt sympa. Il faut rappeler d'ailleurs que la PlayStation 4 Pro développe 4,2 gigaflops. Donc on est au-delà de deux fois la PlayStation 4 Pro en puissance graphique, plus probablement le ray tracing, bien que évidemment AMD n'ait rien dit à partir de là, donc on ne peut pas vraiment en savoir.
Très schématiquement, on double la puissance de la console par rapport aux générations précédentes, donc tu as un très gros saut en
puissance
avant,
graphique.
Et puissance potentiellement graphique. Du ray tracing.
Voilà, la puissance graphique, parce qu'après le CPU aussi sera largement doublé, parce qu'on passe sur une architecture beaucoup plus efficace. Quant à l'Xbox One X, on a des petites révélations par Phil Spencer. Donc globalement, la PlayStation 5, c'est une grosse patate graphique et un SSD qui dépote pour charger les jeux très très vite. Et l'Xbox One X, ben aussi, puisque ce sera une grosse patate graphique et du SSD qui dépote pour avoir des temps de chargement les plus réduits possibles. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est du 4K à 60 FPS, hein, donc ça va être le truc de base de la Xbox One Scarlett, donc pardon. Et aussi, apparemment, la rétrocompatibilité. Donc eux, ils envisagent de faire une rétrocompatibilité qui irait jusqu'à la Xbox première génération. On sait que la Xbox One est compatible Xbox 360 sur certains jeux, hein, Xbox première génération aussi sur certains jeux. La Scarlett permettrait de jouer aux jeux Xbox One, aux jeux Xbox One One X et aux jeux Xbox 360 et Xbox première génération. Donc ça ferait 5 générations et la rétrocompatibilité ne s'arrête pas là puisqu'elle s'étendrait aussi au contrôleur. Puisque le contrôleur, donc la manette serait, la manette Xbox 360, Xbox One, pardon, serait utilisable sur la Scarlett, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Est-ce que c'est pas un peu la foire? Cette histoire de consoles de différentes gammes, générations avant, il y avait les consoles pro, etc. J'avoue que moi maintenant, qui suis évidemment pas, tu le sais, un grand joueur, un grand passionné de consoles, en tout cas de génération actuelle, je suis un peu interpellé parce que je devrais aujourd'hui acheter une Xbox, je serais complètement infoutu de savoir laquelle acheter, quoi. Alors oui, je regarderais sans doute par rapport à la gamme de prix, mais est-ce que au-delà d'avoir différentes réponses en gamme de prix, et encore, enfin c'est pas des prix qui m'ont l'air si différents que ça d'un appareil à l'autre, est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de mettre le foutoir dans un truc et c'est censé être simple, c'est-à-dire que t'achetais une console, t'achetais un jeu et tu savais que ça marchait très bien?
Absolument, mais le foutoir, il est là depuis la PS4 Pro et la Xbox One X. Hein, c'est des versions...
Mais c'est accentué encore, j'ai l'impression, non ?
Ben, quelque part, oui, parce que la PS5, en fait, c'est une PS4 Pro Pro, hein, puisque la PS4 Pro a doublé la PS4, la PS5 va doubler la PS4 Pro, et elles sont toutes compatibles, en réalité. Hein, on aura les mêmes jeux sur, enfin, on a les mêmes jeux sur 4 et 4 Pro, et la PS5 sera rétro-compatible. Donc, bon, évidemment, un jeu PS5 ne tournera pas sur une PS4 Pro, mais bon, il y aura aussi des jeux cross-gène. Qui tourneront sur les deux. Voilà, donc Cyberpunk d'ailleurs à mon avis. Donc à un moment donné, c'est vrai que ça devient un peu comme un PC, quoi, tout simplement. C'est, voilà, on PCise complètement l'aspect console. Effectivement, c'est moins simple qu'avant. Est-ce que
après,
c'est
si
mieux,
ça
c'est
répond
pas mieux
demandes, si ça répond aux demandes et que les gens
moi,
sont satisfaits, mieux.
Oui. Non, mais moi, ça me gonfle. Hein. Honnêtement, ça me gonfle. Parce que moi, j'ai une PS4, ça me saoule d'avoir des jeux qui tournent modérément bien sur ma machine. Parce que tu comprends, sur PS4 Pro, c'est mieux. Ça me casse les burnes, honnêtement. Après, évidemment, oui, c'est sûr que c'est une PS4 Pro, t'es content, tu vois. Mais bon, la promesse c'était la PS4 Pro, c'est pour ceux qui ont une télé 4K et la PS4. Bon, voilà, les autres peuvent avoir la PS4. En réalité,
c'est pas
exactement ça. Tu sais, tu vois bien que sur PS4, il y a des jeux qui rament un peu, alors que chez PS4 Pro, ils tournent à 60 FPS. Bon, c'est un peu emmerdant. Voilà, ça, c'est, je trouve que c'est pas très très sympathique, effectivement.
Bon, ça confirme un peu mon sentiment. Au passage, je me demandais si. Je me demandais si Pascal Pro a une PS4 Pro. Bon, non, c'était pas très 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 drôle. On enchaîne sur Nintendo aussi, qui a sorti, vous le savez, une nouvelle Switch. Et des rumeurs ont commencé à circuler sur le fait qu'il y aurait la possibilité de la part de Nintendo d'échanger une Switch que vous auriez achetée récemment pour une nouvelle Switch. Guillaume, ça me donnerait presque envie de changer de Switch, cette histoire.
Exactement. Et d'ailleurs, le Papa Noël t'apportera tous tes cadeaux si tu es sage.
Ah, je suis content, je suis content.
Non, évidemment, Nintendo va pas changer ta Switch, il faut pas déconner non plus. Mais ça va pas, non.
Ah bon,
donc,
je suis surpris.
Non, que dalle. Que dalle. Par contre, évidemment, si tu veux racheter une nouvelle Switch à 329,99€, tu peux le faire sur Micromania. Et effectivement, comment ne pas se tromper, comment ne pas racheter une vieille Switch toute pourrie, et comment être sûr d'acheter une belle Switch avec une super autonomie? Eh bien, c'est assez simple. Hein. Globalement, sur la boîte de la nouvelle Switch, il y a beaucoup, beaucoup de rouge, beaucoup plus qu'avant. En fait, tout est rouge, le fond est rouge. Et les Joy-Con sont à droite, alors que les Joy-Con sont à gauche sur la vieille boîte. Donc c'est facile, hein. La nouvelle boîte, vous avez à la droite du père, vous avez les Joy-Con, alors qu'ils sont à la sinistre, à la gauche, sur la vieille. Donc la gauche, c'est pas bien, la droite, c'est bien. Bon, en plus, sinon, il y a toujours le numéro de série, puisque le numéro de série de la nouvelle Switch sera HAC00101, au lieu de HAC001 tout court.
Ouais, mais ça saute pas aux yeux, ça saute moins aux yeux que le packaging.
Non, c'est vrai, mais si jamais tu t'es planté et que tu vois ça, tu peux courir à ton, tu peux faire jouer ton droit de rétractation et courir à ta boutique.
Ouais, c'est vrai.
Pour voir un petit peu si tu peux pas échanger tout ça.
Parce que, oui, c'est toujours possible. Mais alors, en tout cas, après, ça va peut-être ouvrir aussi, pourquoi pas, hein, on peut espérer, le marché de l'occasion. J'imagine que des passionnés de Switch qui jouent en mobilité énormément avec vont vouloir profiter de la nouvelle autonomie de la Switch, enfin, de l'autonomie de la nouvelle Switch qui est bien plus importante. Et en tout cas, peut-être qu'on va accéder à un parc d'anciennes Switch. Guillaume, qu'est-ce qu'on peut faire avec une ancienne Switch aussi?
Honnêtement, avec une ancienne Switch, enfin, si vous n'achetez pas la Switch Lite à 200€, puisque c'est 199€ et le prix officiel de la Switch Lite, au fait, au passage, si vous avez une vieille Switch dont vous ne savez pas quoi foutre, envoyez-la moi. si vous ne voulez pas me l'envoyer, vous pouvez toujours essayer d'installer.
Je suis sûr que tu offres les frais de port, tu les rembourses même.
Absolument. On peut s'arranger. Voilà, parole et colis. Donc, si vous avez une vieille Switch, vous pouvez essayer d'installer Android dessus. Ça se fait plutôt pas mal, en fait, puisqu'il y a une version de Lineage OS qui était prévu pour Shield, qui est aussi sur le Tegra X1, qui a été modifié et qui, via fusée gelée, donc via via la vulnérabilité Tegra qui a été patchée dans certaines autres versions, ça marche pas sur toutes les versions de Switch, même anciennes, mais oui, ils ont réussi à installer Android qui fonctionne globalement bien, en fait, sur la Switch. Bon, honnêtement, c'est pas, en plus, ça ne modifie pas l'intérieur de la console, puisque la Switch bootera, en fait, sur votre carte micro SD. Et du coup, c'est plutôt sympathique, en fait. Vous avez une meilleure console Android qui puisse exister, puisque vous avez les Joy-Con et tout, et ça fonctionne pas mal. Par contre, le tactile fonctionne mal. Et très honnêtement, c'est un appareil Android qui est pas aussi rapide que ça. Il faut quand même pas oublier que si vous avez un Note 10, ça va écraser votre Switch, quoi. Donc l'intérêt, c'est plutôt de jouer au jeu. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une super idée, mais en tout cas, sachez qu'il est possible pour, sur certaines tuiles d'installer Android.
Là où je me disais que ça pouvait potentiellement être intéressant, je ne sais pas si ça tourne bien, c'est possible, mais par exemple, je trouve que sur la Switch, ce qui manque, c'est Netflix, par exemple, tu vois, enfin, quand on est abonné à ce genre de service vidéo. Il y a YouTube, mais bon, il faut reconnaître que c'est quand même une plaie de consulter des vidéos YouTube sur la Switch, moi je trouve, en
Alors,
tout cas.
Alors, sur Netflix, il y a peut-être des problèmes de DRM, par contre.
Ah, d'accord.
Hein. Il y a des certifications, je crois, des devices qui... mon avis, sont absolument pas là, évidemment. Donc, j'ai hâte de ce problème-là.
Bon, écoute, c'est en tout cas une prouesse aussi qui peut être intéressante sur le plan technologique, si vous pouvez le faire, ne serait-ce que pour la beauté du geste, parce qu'effectivement, ça n'écrase pas le système d'exploitation qui est
Faites attention quand même, pour rentrer dans le recovery mode, il faut actionner le home button qui demande de mettre en court-circuit deux petits connecteurs cachés, donc c'est un petit peu touchy. Enfin, bon, voilà. Faites attention quand même.
Ouais. Faites-le avec des pincettes, sans mauvais jeu de mots. C'était la Gamescom 2019, Guillaume, qu'est-ce qu'on a pu relever ?
C'est toujours la Gamescom 2019, en fait. Hein. Et bon, c'est vrai qu'au passage, Nvidia a lancé lui aussi son service de streaming, qui s'appelle GeForce Now. Oui, je sais, ça existe déjà, mais ça existait que sur les Shields jusqu'à présent, ça va passer sur Android général, donc voilà, vous aurez plus de 1000 jeux en streaming, et c'est plutôt une bonne nouvelle, je suppose.
Tu sais que j'ai vu remonter, je crois que c'était Julien Cadeau, chez Numérama, qui critiquait un petit peu cette image très galvaudée du smartphone Android avec une manette qui stream un jeu, donc par exemple avec GeForce Now, et en mobilité. Et en fait, il disait mais qui va faire ça ? L'autonomie va être ridicule. Bon, avec du recul, je ne sais pas si elle est bien bien inférieure à celle d'une Switch en mobilité, ancienne génération en tout cas. Mais en tout cas, il disait finalement, qui va faire ça quoi sur son mobile ? Et je me posais la question, qu'est-ce que tu en penses toi, Guillaume ?
Bah écoute, pas moi. Hein. Moi, je vois pas trop, pas plus l'intérêt que ça. Après, si t'es chez toi, tu peux utiliser ton téléphone comme écran déporté. Tu fais un effet Switch avec ton téléphone. À la limite, pourquoi pas ? Je veux dire, à la limite, tu branches ton téléphone et puis voilà, quoi, tu l'utilises comme un écran, ça peut fonctionner. Microsoft aussi veut faire ça avec xCloud, et puis tu peux déjà le faire, je crois, via aller sur la Xbox One, hein, ou en tout cas bientôt. Et puis bon, t'as toujours le jeu déporté sur PS4 aussi qui fonctionne pas mal, hein, mais ça demande une Vita par contre.
Ok, on touche
streaming
un petit
toujours.
Mot. Comment, pardon ?
Streaming toujours.
Oui, donc. Streaming toujours. Des petites news sur Stadia aussi, fais-nous rêver.
Oui, non, non, en fait, donc Stadia sera disponible hein, par le pack Founder Edition à 129€. Donc il y a un Chromecast Ultra qui est donc nécessaire et la manette Stadia, attention, la manette collector. Puis après, il y aura un abonnement de 3 mois offert à Stadia Pro avec 10 balles par mois après, quoi. Globalement, donc il y a eu une conférence à la Gamescom où bon en fait on n'a pas appris grand chose de nouveau sauf que il y allait avoir Cyberpunk 2077 avec des vrais bouts de Keanu Reeves dedans qui serait disponible sur Stadia donc en 2020 le 16 avril 2020. Et c'est une grosse nouvelle quand même, c'est quand même un énorme jeu. Et puis on a eu la liste aussi des jeux qui ont été qui seront sur Stadia, donc il y a une liste qui est assez intéressante, mais bon. On savait déjà qu'il y avait Doom Eternal, on savait déjà. Alors il y aura Elder Scrolls Online, il y aura Borderlands 3, il y aura Watch Dogs Legion, donc Ubisoft reste très très impliqué là-dedans. Il y aura Windjammer 2 et Superhot aussi. Donc il y aura quand même pas mal de trucs, mais il n'y a pas vraiment d'exclus, mis à part Orcs Must Die 3. Je suis pas sûr que ce soit un système seller, très très honnêtement.
C'est quoi Orcs Must Die, moi qui connais pas du tout, en quelques
C'est une tower defense avec des orcs qu'il faut buter. Okay. C'est rigolo. Moi j'ai pas joué au 2, je sais plus. Enfin bon, pas toujours est-il quoi. Le 3 sera exclusivité, mais sera une exclusivité temporaire à Stadia. Je sais pas exactement si c'est un système seller, s'il y en aura d'autres, tu vois, d'exclus. Mais c'est vrai que sans exclus, ça pas être très très facile. En fait, il n'y a pas énormément de nouveautés, j'ai l'impression, sur cette conférence Stadia à la Gamescom.
Bon, allez, un petit mot de nostalgie maintenant, Guillaume, peut-être ?
Je sais pas si toi, est-ce que tu as vu toi des jeux qui t'intéressaient à la Gamescom aussi ?
Je vais être hyper transparent, ça faisait absolument pas partie des priorités que j'avais surveillées.
Oui.
Et donc, j'ai absolument rien vu qui me tiltait.
Oui, bah écoute, après c'est vrai que c'est un peu plus effectivement il y a eu des trucs marrants quand même. Alors évidemment il y a eu une grosse vidéo de Death Stranding, Death Stranding, je sais pas si ça te parle, c'est le prochain jeu de Kojima. Moi, il m'intrigue énormément. Par contre, au plus je le vois, au plus j'en sais, enfin non, au plus j'en vois sur Death Stranding, au plus je me dis que ça aurait dû être une série télé, en fait. Hein, parce que c'est vrai que les phases de gameplay, je vois pas trop l'excitation, quoi. Il y a une ambiance, il y a clairement une ambiance, c'est bien foutu, c'est bien filmé, c'est ultra intriguant au niveau de l'histoire. Par contre, j'ai pas très bien compris quel était, enfin, je crois que personne n'a vraiment très bien compris quel était le cœur du jeu, quoi. Donc, bon, voilà. Parce que là, c'est vrai qu'une vidéo de 6 minutes dans laquelle il grimpe sur une colline avec une échelle comme ça, télescopique, et où il livre un colis, honnêtement, ça me fait pas plus rêver que ça, quoi. J'ai pas très bien compris. Mais bon, toujours est-il que c'est intéressant, c'était marrant de voir. Un petit peu plus de Death Stranding. Et puis, comme tu dis, il y a eu des trucs assez incroyables. Enfin, d'ailleurs, réflexion faite, j'avais déjà été annoncé, l'Amico de télévision. Oui, vous avez bien entendu, Intellivision. Et oui, cette console pas du tout mythique des années 80, qui est de console de Mattel, qui revient pas vraiment, puisque ça n'a absolument rien à voir, c'est juste le nom, la marque Intellivision qui revient, avec une nouvelle console qui s'appelle l'Amico, qui avait déjà, en fait, été annoncée. Et qui revient donc là avec une démo, enfin avec une démo, avec une vidéo d'annonce. Et alors, qu'est-ce que c'est cette console ? C'est une console qui est toute petite, avec deux manettes bizarroïdes d'ailleurs, qui table sur des jeux 2D faciles d'accès, non violents, voilà, qui favorisent la coopération en local. Donc il y aura même un nouvel épisode d'Earthworm Jim, donc c'est Tommy Talarico d'ailleurs qui est aux manettes, c'est un compositeur qui a d'ailleurs œuvré sur Earthworm Jim. Et donc globalement, ce sont des petits jeux qui coûteront entre 3 et 10 euros, il n'y en aura pas forcément énormément, la console vaudra au moins de 200 euros avec deux manettes et 5 jeux, et elle s'est prévue pour le 10 octobre 2020, et donc c'est un petit peu un ovni, parce que c'est une console à contre-pied, quoi, hein, c'est-à-dire c'est une console qui n'est pas puissante, c'est une console qui se veut pas trop chère, avec des jeux pas trop chers, sans aucune DLC, sans aucune pub, sans aucune microtransaction, mais qui essaie de repartir sur le fun d'antan, quoi, voilà, des jeux simples et à partager. Je sais pas, ça te parlerait, toi, ce genre de truc, de proposition ?
Écoute, ça me parlerait grave, parce que c'est la console que j'ai connue quand j'étais petit, moi. C'est-à-dire que on a eu pendant des étés des prêts de Super Nintendo, donc ça, c'était pour moi, c'était une révolution, tu vois. Il y avait les copains qui partaient en vacances, qui évidemment, partaient pas avec leur console, donc ils prêtaient leur Super NES à l'époque. C'est comme ça que j'ai découvert les jeux vidéo. Mais du temps de mes frères, de mes bons vieux frères, il y avait une Intellivision. Alors, je sais pas s'il y a plusieurs modèles d'ailleurs d'Intellivision, mais il y avait cette espèce de grosse console qui, bah, ça ressemblait à tout sauf à une console, ça ressemblait à un gros machin, et il y avait les deux manettes avec les fils, tu sais, en torsade, comme combinés de téléphone. Et l'analogie avec le téléphone s'arrêtait pas là, puisqu'il y avait un clavier de vraies touches physiques par-dessus lesquelles tu glissais des films qui correspondaient aux jeux vidéo auxquels tu jouais. Et donc moi, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec les trois jeux qu'on avait, qui étaient Dungeons and Dragons, il y avait Star Trek, et il y avait le jeu de Space Invaders, et donc moi j'ai grandi avec ça, et donc je serais évidemment très hypé par cette console qui est pas trop chère, qui m'a l'air familiale et qui peut faire un job. Ça me fait penser aux propositions qu'on avait vues et dont on avait parlé, tu sais, de la Playdate de Panic, dont on n'a pas de nouvelles, je crois, mais qui sont ce genre d'initiative où on te promet pas de te faire raquer des tonnes et on te promet une expérience de jeu un petit peu différente, un peu originale. Moi j'adhère en tout cas.
Écoute, c'est vrai que la télévision, c'est une console qui a eu beaucoup moins de succès, qui était là pour concurrencer la NES, et qui était donc juste après l'Atari 2600. Et bon, c'est vrai qu'elle n'a pas eu énormément de succès, elle n'a pas eu énormément de jeux dessus. L'Amico, je pense que ça pourrait être assez sympathique, mais ça dépendra des jeux qu'il y a dessus, quoi. Voilà, il faut qu'il y ait des systèmes sellers, il faut qu'il y ait des bons jeux, en fait, tout simplement. C'est tout à fait possible, hein, mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas trop.
À choisir entre ça et une NES classique, etc. Enfin, bon, c'est pas les mêmes prix non plus, mais franchement, il n'y a pas photo, je trouve. Parfait, on a fait notre petit tour de rubrique jeux vidéo. J'espère qu'on vous aura apporté des news qui vous auront intéressé, qui vous auront donné envie de jouer, va savoir. On va passer à une rubrique qui porte toujours très mal son nom, mais c'est la rubrique En Bref, où on va vous livrer en vrac différentes news qu'on n'a pas pu classer et qu'on voulait quand même vous mentionner. La première, c'est l'info d'un problème sur Kaspersky, qui est un éditeur d'antivirus, qui s'est vu affronter un gros problème là ces derniers temps, puisque a été relevé le fait que l'antivirus Kaspersky injectait à chaque fois que vous visitiez une page web un espèce de mouchard sous la forme d'une espèce d'identifiant unique qui permettait aux éditeurs de suite web tout simplement de vous tracer, et ça soulève pas mal de difficultés. Alors Kaspersky présente ça comme une faille. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une faille. Toutes les versions de Kaspersky étaient concernées. Il semblerait que, selon Kaspersky, ce soit difficile d'exploiter cette espèce d'effet de bord, que moi, je ne voudrais pas présenter comme étant une faille, mais cette espèce de fonctionnalité pas très heureuse. Et la personne qui a soulevé les difficultés souligne, par exemple, encore deux possibilités assez simples d'en profiter. Alors, ça peut être injecter un malware qui est conçu pour qu'une version spécifique de Kaspersky ne le détecte pas, ou très trivial, mais de rediriger l'utilisateur vers une page de phishing qui serait aux couleurs de Kaspersky et qui disait que l'abonnement a expiré et qu'il faut évidemment payer avec sa carte bancaire. Tu me dis si tu veux réagir, évidemment, Guillaume. Non, donc tu veux pas réagir.
Non.
le Kazakhstan.
Non, mais t'as tout dit. Je veux dire, je pense pas que Kaspersky ait fait exprès de faire ça, évidemment. Mais ouais. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu malheureux, quoi.
Oui, c'est pas malveillant intentionnel de leur part, quoi.
Je crois pas, non.
Au Kazakhstan, toujours dans la série des éléments de navigation qui traînent, alors là, pour le coup, de manière très intentionnée, les fournisseurs d'accès au Kazakhstan ont été forcés par le gouvernement à faire installer un certificat sur les appareils des utilisateurs sans lequel ils ne pouvaient plus accéder à Internet et qui avait comme conséquence de supprimer le certificat HTTPS. Donc, grosso modo, de permettre de lire en clair un petit peu toutes les transactions d'information. Ils sont arrêtés ce qu'ils ont présenté être un test, mais pour autant, le certificat continuait à être installé. Donc, il y a eu une prise de position de la part de Google pour Chrome, Mozilla pour Firefox et Apple pour Safari, qui ont affiché des alertes quand un site web visité était intercepté par ce certificat parce qu'il était encore installé partout, et il l'est probablement encore. C'est dingue, hein, quand même, comme initiative de la part du Kazakhstan. Je trouve ça très surprenant, moi.
Alors, ce que je préfère, c'est quand même... les autorités ont quand même dit que c'était pour renforcer la protection des citoyens, des organismes officiels et des entreprises privées contre les attaques de pirates informatiques et des fraudeurs de tout type de cybermenaces. C'est pas gentil, ça.
C'est tellement caricatural. Mais c'est vrai que ça nous embête, le HTTPS, quand même. On peut pas tout voir à cause de ça. On peut demander peut-être à Google, on peut interroger Google sur nos requêtes, on le fait tous, et pourtant une étude montre que on clique sur les résultats des recherches Google dans moins de 50% des cas. Alors je savais qu'on cliquait de moins en moins parce qu'il y a notamment les résultats de niveau 0 dans Google, donc ce qui arrive avant les résultats de recherche, tu sais, c'est ce qui fait que quand tu fais une addition dans le champ de recherche Google, il te donne le résultat plutôt que de t'emmener sur jecalcule.com ou etc. Donc j'étais très surpris de voir que dans moins de 50% des cas, on cliquait sur les résultats de recherche, ce qui en dit long quand même sur le fait que Google est désormais un apporteur d'informations. À vous de voir s'il est fiable ou pas. Et un petit mot aussi pour dire que Twitter réfléchit à la possibilité de s'abonner à des centres d'intérêt et plus uniquement à des comptes. Je trouve ça assez intéressant parce que ça lutte un petit peu contre cette hégémonie des vanity metrics qui consiste à avoir le plus de followers, d'influence, etc. Ce qui peut peut-être pourrir un peu Twitter. Je pense à certaines personnes qui apprécieraient de pouvoir suivre des centres d'intérêt plutôt que de se limiter à suivre des personnes. Je ne sais pas si ça reviendrait au même selon les sujets, mais en tout cas, l'initiative me paraissait plutôt cool. Un petit mot peut-être chez Reddit, toi, quand on parle de... Alors, ce n'est pas directement des réseaux sociaux, quoique. Un petit mot sur Reddit, Guillaume.
Oui, quand même. Reddit a peur de rien, hein, puisque Reddit veut tester en tout cas le Public Access Network, donc c'est r/pan. Et c'est quoi? C'est tout simplement un live stream. Donc c'est, tu peux t'inscrire pour le test et tu pourras live streamer pendant 5 jours à partir du 23 août. Alors oui, bien entendu, ils savent que c'est extrêmement casse-gueule et du coup, ils prennent énormément de précautions. souvent. Déjà, ils ont des politiques, comment dire, de body ratio, enfin, voilà, qui sont beaucoup plus restrictives pour le stream que normalement, on va dire. Donc, non, pas de porno. Et en plus, il y a, enfin voilà, ils seront très très. Je pense que ce sera, il y aura peut-être léger différé. Enfin, en tous les cas, il y a plein de gens qui vont regarder tous les streams qui passent pour bien faire attention, parce que voilà, on sait très bien à quel point ça peut être compliqué et dangereux de faire du stream. Et l'actualité nous l'a bien démontré il y a malheureusement peu de temps.
Évidemment. Et moi, je garde encore une fois ma position et ma réflexion de fond, qui est de dire que le streaming, la diffusion en live, ne devrait pas être permise à tout le monde, tout simplement. Bon, enfin bon. Facebook, au départ, et prenez le départ avec des guillemets, hein, mais c'était des échanges d'informations entre les gens. Ensuite, il y a eu de plus en plus d'informations de pages qui venaient dérouler le fil d'actualité des utilisateurs Facebook, et notamment des news qui tombaient dans le fil d'actualité. Les gens se sont plaints, et il y a eu un retour, donc une réévaluation de l'algorithme de Facebook pour remettre des contenus de vos proches dans le fil d'actualité, et repatatras, il semblerait que Facebook veuille à nouveau faire en sorte que les médias aient une place privilégiée sur votre navigation sur Facebook. Et donc, il y aurait des accords qui seraient en cours de discussion avec Facebook, avec des grands éditeurs de presse américains, pour proposer une espèce de section à part entière, un peu à la manière de ce que fait Google News ou Apple News. Je pense que Facebook veut sa part du gâteau de la curation de news. À vous de voir si vous voulez consulter à vos news dans Facebook. Et un petit mot, bah tiens, quand on parle de Facebook, on associe, je sais pas pourquoi, assez vite le terme de fake news ou de désinformation. Le chiffre est tombé, selon une étude là, ces dernières semaines. 235 millions de dollars seraient recueillis annuellement par les sites de désinformation sur la base de leurs revenus publicitaires. Je trouvais ça là aussi très important. J'aurais pu m'attendre à ce que ce soit presque plus, mais je trouvais ça quand même énorme. Toujours Facebook, Guillaume, je sais que ça te passionne parce que toi, tu es un grand utilisateur de Facebook, donc je me permets de vraiment lister tout ce qui se passe sur ce sujet-là. Il y a le pixel Facebook qu'on peut déposer sur un site web, qui est une espèce de petit morceau de code qui permet d'avoir des éléments de tracking, un peu comme avec Google Analytics, on peut poser des tags, là en l'occurrence on peut le faire sur des sites web. Évidemment, c'est formidable pour Facebook, qui a plein d'informations et les administrateurs sur Facebook qui ont plein d'informations sur ce qui se passe en dehors de Facebook. Mais Facebook est gentil et veut maintenant être une entreprise privacy first, et donc va nous permettre de gérer notre activité en dehors de Facebook. C'est-à-dire qu'ils vont nous permettre de mieux contrôler les infos qui sont partagées par les sites web, mais aussi par les applications quand on utilise des pixels Facebook. Et donc on va pouvoir grosso modo les bloquer, déjà en prendre connaissance de ces informations et les bloquer. Guillaume, tu parlais dans le dernier épisode de la mobilité avec les trottinettes électriques. On n'en a pas dit que du bien. Hein. Peut-être qu'on a trouvé des innovations qui pourraient faire en sorte que ça se passerait mieux, non ?
Oui, d'ailleurs, on avait dit qu'un des problèmes, c'était qu'il fallait qu'un camion diesel passe dans toute la ville pour les rattraper et pour les rabattre et les apporter donc à des endroits, aux endroits prévus. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un problème. Alors, est-ce que ce serait mieux peut-être qu'elle le fasse toute seule? Et Segway, ça tombe bien parce que Segway Ninebot qui présente le kick scooter T60 donc à Pékin vendredi. Et selon Reuters, c'est un scooter à trois roues, donc deux à l'avant, une à l'arrière. Et il est censé utiliser donc de l'intelligence artificielle dans le cloud pour se guider sans pilote humain. Ce qui sous-entend qu'il pourrait parfaitement se rendre compte que ah, mais je suis pas du tout à ma place. Et bon, voilà, c'est l'heure, je ferme. Et boum, il va se recharger tout seul à une borne, ou alors il va se ranger, se garer à l'endroit prévu. Plus besoin de camions diesel, et ça, c'est formidable. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de démonstration publique de cette capacité. Donc bon, pour l'instant, on a juste les déclarations. Et surtout, c'est un truc qui devrait se vendre 1420 $, ce qui est extrêmement cher, puisque ça coûte entre 100 et 300 $ pour les propriétaires, pour Lime et Bird, les scooters. Donc c'est plutôt une bonne idée, mais c'est sans doute hors de portée de la plupart, voire de tout le monde en ce moment.
Pas très réaliste, quoi. On a toute une...
Dommage.
C'est dommage, oui. Mais ça va sans doute, on va trouver des solutions. Moi, j'ai foi comme ça en la créativité de l'espèce humaine pour les nouvelles technologies. J'ai peur aussi, mais j'ai foi. Toute une série d'exotrucs, Guillaume.
Oui, ben oui, parce que bon, les exotrucs, c'est marrant. On avait parlé d'exosquelettes avec, ouais, on peut pour marcher comme ça avec des espèces de pantalons robots qui marcheraient à ta place. Ça c'est quand même déjà très cool.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est un petit peu encombrant. Alors plutôt qu'un pantalon robot, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un short robot?
Ah bah si.
Et ben oui, mais oui, parce que les chercheurs de l'université d'Harvard ont mis au point une petite combinaison qui ressemble à un gros short, en fait, qui pèse quand même assez lourd, puisqu'il pèse 11 livres d'après eux, donc un peu plus de 5 kilos. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, il fait la même chose que le pantalon robot, sauf qu'il le fait uniquement à la base, dans la zone, vous avez compris quoi. Alors, ça sert à quoi? Ben, tout simplement à aider un petit peu. Donc, il faut voir que globalement, la quantité d'oxygène, ils ont mesuré que la quantité d'oxygène, par la quantité d'oxygène, hein, que le coût métabolique de la marche serait réduit de 9% et celui de la course de 4% avec ce short. Donc, c'est pas énorme, mais ça permettrait de se sentir quelques kilos plus léger. Voilà. 5 et 6 kilos plus léger, ça peut quand même être. Alors évidemment, c'est quand même encore pas encombrant, mais si c'était réduit et si c'était optimisé, ben ça pourrait quand même être une aide, un soutien pour les gens qui marchent énormément, que ce soit des militaires ou des randonneurs ou voilà, n'importe qui marche énormément pendant la journée pourrait se voir un petit peu aider, même si c'est que de 10%, finalement, ben ça peut quand même faire la différence, quoi.
Ah, si, on court pas forcément plus vite, on va pas forcément plus vite, mais c'est moins fatigant.
Ouais,
donc
et
plus
ouais,
longtemps,
exactement.
peut-être on est
C'est
plus endurant.
exactement, exactement. Alors, un autre truc qui peut être amélioré que l'endurance, c'est l'équilibre. Et oui, parce que les personnes âgées, par exemple, parfois, ben, elles ont des problèmes d'équilibre. Parfois, moi-même, j'ai des petits problèmes d'équilibre. Alors, comment est-ce que je peux faire? Ça dépend ce que j'ai
Fait
bu
du
avant.
yoga, non?
Ça dépend ce que j'ai bu avant, et oui, tout à fait, ou ce que les mouvements inconsidérés que je peux faire. Toujours est-il que si pour comment les animaux conservent leur équilibre en toutes circonstances, ben, eux, ils ont une queue. Et bon, alors, je vais me dire une queue derrière. Et donc, nous, non, pas derrière. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on n'a qu'à prendre l'exemple de l'hippocampe, n'est-ce pas, qui a une très très grosse queue. Et on peut essayer de faire comme ça une espèce de queue robotisée qui fait à peu près 1 mètre de long avec une petite demi-douzaine de vertèbres métalliques. Et ces vertèbres métalliques s'accrochent au bas du dos. Et évidemment, elles sont robotisées, donc ça veut dire qu'elles détectent les changements de votre centre de gravité et elles s'y adaptent exactement comme une queue d'animal. Du coup, si vous vous mettez sur le côté, enfin, si vous levez, vous mettez en équilibre sur un seul pied en penchant du côté gauche, la queue va automatiquement s'ajuster du côté droit pour vous maintenir l'équilibre. Ce qui fait que vous êtes parfaitement stable, même si vous êtes sur un pied. Et bon, de manière, si vous penchez vers l'avant, de la même manière, elle va faire contrepoids vers l'arrière, et ainsi de suite. Donc, si vous voyez votre mamie qui a des problèmes d'équilibre, sachez que peut-être demain, votre mamie aura une grosse queue métallique qui lui permettra de rester debout et de marcher tranquillement. Je sais, c'est étrange, mais ça marche.
J'aimerais que vous preniez quelques secondes, que vous vous mettiez dans la
pour
place
aller voir les photos et que vous visualisiez votre mamie avec ce genre de truc. Ouais. Ça c'est une.
Et puis sinon, vous pouvez aussi vous imaginez qu'on aurait dû avoir Pierre-Olivier Diepmann avec nous dans cette émission et qui n'a pas pu être malheureusement présent. Il a dû décliner un petit peu au dernier moment, mais j'imagine tout ce qui aurait pu lui passer dans le cerveau quand on parlait d'exoqueux. Et donc, je vous invite à réécouter cette section, de remonter de quelques secondes
oui.
et de réécouter cette news.
C'est vrai qu'avoir une grosse queue robot, ça peut tenter finalement.
Ça peut être
part,
tentant, ouais. Ta mamie avec une grosse queue robot, ça pourrait être sympa. Si on était encore à l'époque où on mettait des titres un peu accrocheurs, aguicheurs, on aurait pu faire ça, tu vois.
Ah, mais oui, mais tellement, c'est dommage.
On va essayer de le mettre en sous-titre.
Des chercheurs de l'université de Tokyo, je ne l'ai pas dit, donc c'est sérieux, a priori.
Non, mais en plus, je trouve ça très convaincant. C'est un peu compliqué pour s'asseoir avec, mais bon. Des petits mots sur Tesla, Guillaume?
Oui, Tesla a des gros problèmes avec sa filière solaire, donc elle veut essayer de relancer la machine en lançant un plan de location. En fait, vous louez vos panneaux solaires à partir de $50 par mois, voilà, avec des frais de déménagement de $1,500 si vous les voulez pas. Bon, alors je sais pas si c'est extrêmement judicieux vu que, en général, les panneaux solaires c'est des trucs qui s'amortissent sur le long terme et que donc sur le long terme, a priori, je pense que c'est mieux de les acheter. Mais bon, bref. Toujours est-il que ça baisse le ticket d'entrée pour avoir des panneaux solaires Tesla. Alors ça, c'est s'ils prennent pas feu, parce que le problème, c'est que Walmart poursuit Tesla en justice parce que ces panneaux solaires auraient causé des incendies.
Aïe,
donc
aïe,
quand
aïe.
Même pas moins de 7 je crois que c'est 7 magasins, donc 7 magasins Walmart et des centaines de milliers de dollars de dégâts parce que en fait bah, les télés, enfin c'était ils ont été branchés n'importe comment. Ils n'ont pas été reliés à la Terre, et c'est des panneaux solaires qui ont donc été défectueux. Walmart n'est pas content du tout.
Ah, donc c'est pas alors, forcément Tesla le problème alors.
Ah ben bah, je les a priori ils disent eux dit, enfin, Walmart dit que les ils ont été mal installés et qu'ils sont de qualité voilà déplorable quoi. Hein,
mais c'est peut-être pas Tesla qui les a installés, c'est ça que je veux dire.
Écoute, je sais pas. Ils disent qu'il y a des signes évidents de négligence.
Okay,
et je crois qu'ils ont dit aussi des années de négligence grave et l'incapacité, je cite, de Tesla à se conformer aux normes de l'industrie.
Ah oui, d'accord. Ouais, ok.
Donc, bon, voilà, c'est genre, tu en déduis ce que tu veux. Donc, voilà, alors, c'est des panneaux solaires à louer. Je sais pas, est-ce que c'est mieux que des bancs solaires, par exemple ?
Ah,
je sais pas si tu as vu ça.
Bien sûr,
parce que
j'ai vu ça.
Pour le G7 à Biarritz, on a des bancs solaires.
C'est génial.
C'est bien ça, hein, des bancs avec des panneaux. Photovoltaïques qui doivent prendre le soleil pour... c'est bien jusqu'à ce qu'on s'assoie dessus, parce que effectivement, comme on n'est pas trop transparent, c'est pas... Voilà. Donc ça a beaucoup fait rigoler, moi y compris, hein, là que Biarritz installe des bancs solaires qui coûtent quand même entre 6 et 8 000 euros pièce, et qui génèrent de l'électricité uniquement si on ne s'en sert pas, c'est vraiment très très intelligent. En même temps, c'est un petit peu la même chose que la route solaire. Ça a été une grande histoire aussi en 2016.
C'est vrai, je me rappelle, on en avait parlé dans Tech Café de ça.
Mais bien sûr.
On disait que ça n'allait pas forcément bien marcher, ça.
Alors, dans l'idée, nous, on était plutôt ouverts. Hein, je veux dire, pourquoi pas, a priori. Hein, je veux dire, par contre, c'est vrai qu'on demandait à voir. Bon, ben là, on voit, puisque bon, 2016, c'était décembre 2016, l'initiative de Ségolène Royal, donc, qui était à l'époque ministre de l'Environnement. Ouais. Donc, dans l'Orne, il y avait cette grande route qui devait donc produire 150 000 kWh par an et qui, en 2018, en produit péniblement la moitié et qui, donc, rapporte d'autant moins d'argent. Et en fait qui rapporte même pas du tout d'argent puisque la route déjà disjonctée à cause des orages, elle génère des nuisances sonores et puis surtout les dalles sont usées et les panneaux solaires se décollent de la chaussée et donc il y a une centaine de mètres qui a dû être enlevé pour être réparé. Donc globalement ça résiste pas au test de la vraie vie cette idée, c'est-à-dire que voilà, si vous payez des panneaux solaires c'est bien mais quand des voitures roulent dessus ça va beaucoup moins bien tout de suite. Donc c'était pas forcément une super idée malheureusement.
Bon, moi j'aime bien hein, ces tests qui permettent de vérifier des choses et puis on n'est pas à l'abri de trouver des choses qui fonctionnent et qui nous surprennent d'un autre côté. Il y a un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est cette initiative qui vise à remplacer l'IMAP. Alors qu'est-ce que c'est que l'IMAP ou l'IMAP ? C'est le protocole, donc la manière dont on communique vos mails la plupart du temps sur vos appareils. Je simplifie un petit peu les choses, mais grosso modo, on a connu les protocoles POP, POP3, etc., qui permettaient de recevoir les mails, mais en gros, ils étaient envoyés sur chacun des appareils qui étaient branchés à votre boîte mail. Et c'était le cas de pas mal de boîtes mail il y a plusieurs années. Mais depuis, ce qui s'est démocratisé, c'est l'IMAP qui fait une espèce de synchronisation entre vos différentes boîtes mail, à travers les différents appareils et les différents logiciels qui exploitent votre boîte mail. Il faut reconnaître que c'est peut-être pas protocole le plus avant-gardiste qui soit, mais bon, on rappelle qu'on parle du mail qui est peut-être pas non plus la technologie la plus avant-gardiste qui soit, mais il y a une proposition d'un nouveau protocole qui s'appelle le JMAP, qui est basé donc sur le JSON, donc c'est JMAP, c'est pour JSON Meta Application Protocol, et qui propose une solution similaire à l'IMAP mais beaucoup plus rapide et qui propose en plus des fonctionnalités natives de programmer un envoi de mail, d'obtenir un accusé de réception, d'annuler l'expédition d'un mail, et donc j'étais surpris de voir qu'on pouvait innover de manière aussi intéressante pour les usages sur un protocole de mail, un truc qui me paraissait être immuable et qui bougerait plus tant on ne voudrait plus le faire innover. J'ai trouvé ça assez cool. Je sais pas si t'avais vu passer cette proposition, Guy.
Ben pas du tout, d'ailleurs, ça peut être intéressant, effectivement.
C'est là-dessus que fonctionne Fastmail, déjà aujourd'hui, sur protocole. On a fait le tour de toutes nos news, on a été, encore une fois, très complet, trop Guillaume, je sais pas, on vous a relayé en tout cas toutes les news qui nous paraissaient importantes de connaître pendant cette semaine. On enchaîne tout de suite avec les bonus. Guillaume, qu'as-tu emmené dans tes bonus pour cet épisode de Tech Café ?
Ben, j'en ai parlé la dernière fois, la saison 5 de Black Mirror, bon, c'est sympa à regarder, mais franchement, au niveau anticipation, c'est pas ça, et puis c'est devenu vraiment trop choupi, c'est devenu tellement choupi, finalement, que j'ai essayé de trouver une autre série, et j'ai trouvé Years and Years, donc Years and Years, donc c'est une série qui est une collaboration entre HBO et la BBC, Et c'est une série donc anglaise qui a été qui se passe, donc, ça suit une famille, hein, la famille Lyons, qui est une fratrie anglaise et qui vit à Manchester. C'est une série qui est due à Russell T. Davis, qui donc a organisé le retour de Doctor Who en 2005 et qui a écrit ce truc-là. Et en fait, Years and Years, qu'est-ce que c'est ? C'est une série d'anticipation qui, donc à chaque épisode, vous prenez un an. Et du coup, il y a 6 épisodes d'une heure, et à la fin, vous vous retrouvez en 2029, donc ça vous projette 10 ans dans le futur.
Ouais, c'est 24 heures chrono, mais avec les années, quoi.
C'est à peu près ça, c'est à peu près 24 heures chrono avec les années. Donc ça, voilà, donc sur 6 épisodes, il y a 10 ans, et on prend à peu près, pas tout à fait, un an par épisode. Et donc Years and Years, c'est vraiment un mélange entre une chronique familiale, assez réaliste, c'est presque documentaire en fait, et Black Mirror, puisqu'il y a aussi cet aspect d'anticipation, mais c'est pas juste technologique, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup politique. Et bon, c'est à peu près inévitable, donc il y a les deux qui se mélangent un petit peu. Et en fait, c'est une série qui est inconfortablement crédible, on va dire, parce que c'est voilà ce qui se passe dedans, c'est vraiment pas très chouette. Et c'est très très crédible. Évidemment, on y parle de préoccupations complètement actuelles, hein. Que ce soit les migrants, que ce soit le populisme, que ce soit bon, vous verrez. Donc c'est vraiment très bien. La fin est peut-être un petit peu too much. Voilà, si vous la regardez jusqu'à la fin, vous verrez peut-être de quoi je veux parler. La fin est probablement un petit peu too much. Mais globalement, enfin dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est un petit peu une sorte de Black Mirror, mais sauf que c'est pas du tout une série anthologique, c'est une vraie série qui se suit sur donc 6 épisodes. C'est pas complètement évident à voir en France. Je crois que c'est sur Canal Play. Voilà. Bon, cela dit, si vous êtes pas abonné à Canal Play ou vous voulez pas vous abonner, bon, bah, je sais pas, débrouillez-vous. En tous les cas, c'est probablement une alternative très crédible à Black Mirror, qui s'est un petit peu trop adouci.
Ok, et pas que technologique, tu disais, hein, des anticipations.
Non, pas du tout que technologique. D'ailleurs, on y retrouve Emma Thompson, qui joue un rôle de femme politique qui s'amuse à tacler complètement Boris Johnson. Enfin, c'est très, très amusant.
Ok, eh ben, c'est rajouté dans notre watchlist, Guillaume. Merci beaucoup. De mon côté, en fait, j'avais pas prévu de bonus. J'avais pas en tête d'éléments que je pourrais relayer tant ma vie a été inintéressante ces derniers jours, ou trop personnelle pour être partagée, peut-être, je sais pas. Mais on a terminé Orange is the New Black, donc la dernière saison, hein, sur Netflix, de cette série où on suit principalement des femmes dans un environnement carcéral, donc en prison. Ça a été une série assez emblématique. En plus, pour Netflix, au départ, je pense qu'elle a été dans l'inconscient collectif associée à ce qu'était Netflix au départ assez rapidement. Et je me suis surpris à la regarder épisode après épisode cette dernière saison en me disant je ne sais pas pourquoi je la regarde. Pour moi, c'est une saison de trop. Alors, elle est pas inintéressante. Elle porte encore des messages qui sont assez forts, hein, par rapport à la défense des droits des personnes, notamment aux États-Unis, et en particulier celles qui sont concernées par l'environnement carcéral. Donc, je trouve ça très cool. Il y a aussi un truc qui est très bien, c'est qu'il y a dans la fiction de la série la création. Je demi-spoil, hein, mais d'un fonds destiné aux personnes qui sortent de prison pour les aider à la réinsertion, et c'est un fonds qui voit vraiment le jour. Donc si on veut vraiment le soutenir, il y a une espèce de campagne de crowdfunding qui se monte pour la mettre en place en vrai, donc ça c'est assez cool. Au-delà de ça, je me posais vraiment des questions, et ça a été l'objet de discussions avec des proches, sur pourquoi je regardais des séries qui finalement ne me faisaient pas plus rêver que ça. Je l'ai regardé en fait pour une simple et bonne raison, qui est que j'ai commencé à la regarder et j'ai vu suffisamment de saisons pour refuser de ne pas voir les dernières saisons. Quitte à ce que je passe finalement des moments difficiles, parce que le mot est peut-être un peu fort, de moments difficiles, mais quand je regardais les épisodes de la dernière saison, j'étais vraiment pas embarqué et parfois je luttais un petit peu pour regarder les épisodes jusqu'au bout. Et j'ai souffert. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je continue à regarder ? C'est le même syndrome qui m'oblige à finir un livre que j'ai commencé, même s'il m'emmerde profondément. Et je pense qu'on a toute cette société de consommation des médias qui nous entraîne, probablement inconsciemment, à consulter du contenu parce qu'il a été bien amené, parce qu'il a été bien marketé, parce qu'il nous a été bien vendu, parce qu'on paye aussi cet abonnement et qu'on se dit, bah tiens, je vais le regarder jusqu'au bout. On se sent peut-être redevable, alors qu'en fait, on devrait surtout pas se sentir obligé de regarder des trucs qui nous pèsent. On peut avoir la bonne surprise de la fin, mais je comprends pas pourquoi je me suis infligé cette violence, quoi. Je sais pas si tu constates ce sentiment aussi, Guillaume.
Alors moi j'ai beaucoup moins de ça, mais c'est vrai que bon bah, en fait ce que tu recommandes c'est de casser l'effet de gel quoi, c'est-à-dire de lutter contre l'effet de gel.
Tout à fait.
C'est un peu ça que. Parce que bon l'effet de gel effectivement c'est on l'a tous, hein, vous commencez un truc, vous investissez dedans, au
C'est
plus vous
ça.
investissez dedans, au moins vous avez tendance à vouloir vous arrêter. Même si, alors que enfin même si c'est une erreur, parce que finalement
C'est
au
complètement
total, ça vous
con.
coûtera d'autant plus
Bah
cher, que
oui.
ce soit en argent ou en temps ou en quoi que ce
C'est
soit.
clair.
Donc effectivement, n'hésitez pas à dire non mais j'en ai rien à foutre, ça me saoule. Et arrêter.
C'est
Tout
fou,
simplement, ça vous économisera pas mal d'heures. Ouais. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour absolument tout.
hein. Et
C'est non, mais je suis d'accord.
c'est vrai aussi pour mon application de lecture différée, tu vois. J'utilise Pocket, j'adore Pocket, mais je me sens parfois obligé de lire des articles que j'ai bookmarqués, alors qu'à quelques jours de recul, ils m'intéresseront plus, quoi. Alors j'ai moins ce problème, tu vois, j'arrive à me corriger avec le temps. Mais bon. Et d'ailleurs, au passage, j'ai écouté le dernier épisode de l'Eclectic Show de mon ami Matt, un autre podcast où il vous parle d'une application comme ça qui pourra peut-être vous plaire si vous avez ce syndrome-là pour des applications de lecture différée.
Voilà, de les biais cognitifs, c'est mal.
Oui, c'est classé dans les biais cognitifs ou qui sont pas bien. C'est pas bien. Merci beaucoup Guillaume pour cet épisode, pour cette participation et aussi pour la préparation d'une bonne partie du conducteur. Est-ce que tu peux nous rappeler Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, en tant qu'individu, si on veut échanger avec toi?
Ouh, ça va être très très compliqué, hein, mais essayez donc sur Telegram, si vous êtes sage, peut-être je répondrai.
Et Telegram est donc ce service de messagerie où il y a un groupe des auditeurs de Tech Café, donc vous pouvez discuter entre vous et avec nous. On vous donne rendez-vous pour échanger évidemment donc sur Telegram, le lien figure dans les notes de l'émission. Vous pouvez aussi réagir avec un commentaire sur le site techcafé.fr, et d'ailleurs ça publie à chaque fois qu'il y a un commentaire, attention grosse innovation, ça publie un message automatiquement sur Telegram, donc comme ça valorise un petit peu ceux qui prennent le temps d'aller déposer des commentaires sur techcafé.fr. Vous pouvez bien entendu nous soutenir sur Patreon, comme je vous l'ai dit en intro, mais aussi parler du podcast à vos proches pour ceux qui souhaiteraient se tenir au courant de l'actu tech. On dira, allez, en deux allers-retours de trajet domicile-boulot pour beaucoup de monde. Vous aurez pu vous tenir au courant de toute l'actu tech de la semaine, je l'espère, avec plaisir et avec bonne humeur. Et puis, n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous aider en déposant vos petits avis sur Apple Podcast pour nous dire tout le bien que vous pensez de l'émission. Et ça participera évidemment à la visibilité du podcast. Merci beaucoup de votre fidélité. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao.